Alors bonsoir à toutes et à tous. C'est marqué dans l'Yerushalmi, donc le Talmud de Jérusalem, sur la Gemara Megillah, au premier Perek, à la Chahé, c'est marqué comme ça. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, Anevi'im ve'aktuvim atidim le'ibatel. Nevi'im sont les prophètes, aktuvim, les hagiographes, tous les écrits, les teilim, les proverbes. C'est dans la Bible, il y a trois grandes parties. Il y a la Torah, le Chumash, après il y a les Nevi'im et les Ktuvim. Maintenant, les deux dernières parties sont les Nevi'im et les Ktuvim. Il dit Rabbi Yochanan, la Hatid Lavo, c'est-à-dire à l'époque du Mashiach, ce sera annulé. Alors les Nevi'im, c'est normal, puisque la majorité des prophéties ont été écrites pour l'époque du Mashiach. Donc quand on arrivera à l'époque du Mashiach, on n'aura plus besoin des prophéties, puisqu'on les vivra. D'accord ? Après, c'est marqué, Vechamisha Sifre Torah, maintenant les cinq livres de la Torah, Enan Anetidim Leivatel, mais les cinq livres de la Torah ne seront pas annulés, ils resteront encore. Maïtama, l'Agmara dit pourquoi, c'est marqué Kol Gadol Velo Yassaf. Au moment, quand on raconte dans la Torah le don de la Torah, c'est marqué Kol Gadol, une grande voix, Velo Yassaf, elle ne va pas s'interrompre. Donc ça veut dire que la voix de la Torah, elle va continuer, même après, même la Hati de Lavo, à l'époque du Mashiach. Rabbi Shimon ben Levi a dit, Af Megillat Esther. Aussi la Megillat Esther, Ve'alachot et les lois, Enan Atidim Leibatel, ne vont pas être annulées. Ne'markan Kol Gadol Velo Yassaf, ce qui est marqué ici dans la Torah, à propos du Sefer Torah, Kol Gadol Velo Yassaf, une grande voix qui ne va pas s'arrêter, Ve'nemar Le'alan, Ve'zacham Velo Yassaf Mizaram, oui, c'est marqué à la fin de la Megillah. Et ils s'en rappelleront, et ça ne s'arrêtera pas pour leur génération. Donc de la même manière qu'après, à l'époque du Mashiach, on va garder encore le 5 livre de la Torah, de la même manière, on va aussi garder la Megillat Esther. Alors nous, on dit c'est bizarre. Parce qu'on dit on va annuler tous les prophètes, on va annuler tous les... Enfin, annuler, ça veut dire qu'on fera plus mention, mais on va garder la Megillat Esther. C'est bizarre, parce que tous les prophètes, tous les rois, toute l'histoire du peuple d'Israël, elle est inscrite dans la Bible à cet endroit-là. Maintenant, les Chachamim te disent attention, on va garder quand même la Megillah. Tu mets la Megillah dans toute l'histoire d'Israël, c'est un épisode très court. Tu prends toute l'histoire d'Israël, depuis la sortie d'Égypte, c'est passé tellement de choses. Donc à partir de Yeshua, on va enlever tout le reste, on n'a plus besoin. Mais on va garder la Megillah d'Esther. Qu'est-ce qui est spécial dans la Megillah? Après, c'est marqué dans Yalkut, dans Michelet, le Midrash Yalkut, sur Michelet, il dit comme ça. Tafra, tafra, masra yana, af, acha, shulchana. C'est marqué dans Michelet un pasuk spécial. Tafra, tafra. D'accord? Ça veut dire, abattez des animaux pour les manger. Faites la shrita pour les animaux pour les manger. Masra yana, versez le vin pour le boire. Acha, shulchana, installez la table. Un pasouk dans les proverbes. Alors le Yalkut, là-bas, le Midrash, il explique de quoi il parle ce pasouk. Tafra, Zoester Malka. Quand c'est marqué, faites l'abattage rituel, ça parle de la reine Esther. Pourquoi? Chez Bécha, chez Giatzar, l'Israël. Parce qu'au moment où est arrivée une grande douleur pour Israël, Itkina, Seuda, l'Achashverosh, ou le Haman, Aracha, oui, elle a institué un repas, un festin, pour Achashverosh et Haman. Comme vous connaissez toute l'histoire, quand Haman avait promulgué le décret de destruction de tout le peuple d'Israël, et qu'on est venu l'annoncer à Esther, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé 3 jours, que tout le peuple d'Israël jeûne pendant 3 jours, c'est pour ça qu'on jeûne la veille de Pourim. Et ensuite, elle a pris une décision, elle a décidé d'inviter Haman et Achashverosh à un festin. Donc elle a fait 2 soirs de suite, et ensuite elle a révélé au roi que c'était Haman qui voulait détruire son peuple. Bon, vous connaissez l'histoire. Ici, c'est marqué dans le Midrash. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire tafra tafra? Genre, abattez la viande. C'est une façon de parler pour dire, allez, préparez à manger pour la fête. On dit, on parle de quoi? On parle de Esther qui a institué un repas pour Achashverosh et pour Haman. Oui. Alors, pourquoi c'est marqué? Les Shikrato Beyaïn Yoter, et elle l'a saoulé avec beaucoup de vin. Et Haman y croyait que c'était pour lui faire du kavod. Lui, il s'est dit, tu te rends compte, moi, je suis invité avec le roi pour un dîner privé avec la reine. Donc lui, il croyait que c'était pour son bien. Ve'ulo yada chez Pachaï l'Ometsuda, il ne savait pas qu'elle, elle lui avait tendu un piège. Chez Mitor, chez Chakra Otobéaïn, parce que puisqu'elle l'avait saoulé avec du vin, Kantala Umata Leolam. Ça veut dire ça. Elle a acquis, je ne sais pas comment on dit, son peuple à jamais. Le peuple de Haman à jamais. Bon. Après, c'est marqué Af Acha Shulchana. Après, c'est écrit dans le Pasuk. On a préparé la table. C'est quoi? Ba'olamazé ou ba'olamaba? Dans ce monde-ci, dans l'autre monde. Le Midrash dit Eze, c'est quoi? Zé Shem Tov. C'est un bon nom. Chez Kanta qu'elle a acquis Esther. Jusqu'à la fin des temps, Esther, Amalka, on se rappelle d'elle. On sait qui est la reine Esther. Il y a eu beaucoup d'héroïnes dans la Torah, il y a eu beaucoup de héros dans la Torah. On se rappelle de la reine Esther. Elle a acquis un bon nom, une bonne réputation. Pourquoi? Chez Kol Amoadot, Atidim Leibatel. Parce que toutes les fêtes, plus tard, elles seront annulées. À l'époque du Mashiach, toutes les fêtes vont être annulées. Veillez mais à Purim, Enan Betelim Leolam. Mais les jours de Purim, la fête de Purim, elle ne sera jamais annulée. Oh, nous, on comprend pas. Attends, on va annuler Pessah. On va annuler Shavuot. On va annuler Sukkot. On va annuler Hanouka. Mais on va pas annuler Purim. Attends, si quelqu'un il veut me parler de l'importance de je dis Pessah, c'est ce que c'est Pessah. C'est ce que c'est Shavuot. Il dit oui, mais c'est Purim qu'on va conserver. Mais Purim, c'est un point dans l'histoire juive. Oh, c'est joli, c'est bien, les ministères, ils étaient menacés. Bon, finalement, il y a eu un miracle, ils ont été sauvés. Mais combien de fois? Combien de fois ils ont été menacés? Combien de fois ils ont été sauvés? Pourquoi on a gardé juste la Megillah d'Esther? Juste Purim. Juste la Megillah d'Esther, on a dit en haut. On gardera le texte de la Megillah d'Esther. Et on gardera la fête de Purim. Amar Ben Eleazar, Afiyom Akipurim. On gardera aussi Yom Kippour. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer qu'avec la venue du Mashiach, les deux fêtes qui vont rester, c'est Yom Kippour et Purim. Il dit, Loi Batel Leolam, ça sera jamais annulé, Yom Kippour. Pourquoi? Parce que chez Neymar, Ve'aita, Zot Lachem, Lechukat Olam. C'est marqué dans la Torah, et ce sera pour vous, Lechukat Olam, c'est-à-dire une loi à tout jamais. Donc tu vois donc que Yom Kippour et Purim sont des fêtes qui vont rester à l'époque du Mashiach. Alors on dit, pourquoi? Pourquoi toutes les fêtes vont disparaître et Yom Kippour et Purim, ça va rester? Alors, pour comprendre ça, ce qui est marqué à propos de Rabbi Yochanan, que tous les textes de la Torah, on va garder le Chumash. Et tous les autres livres de la Torah, ils vont disparaître. Alors, le Rav Chaim Friedlander, il explique, il dit en vérité, tous ces livres-là, ils ont été créés, comme elle dit la Gemara, qu'en vérité, il y a eu des millions et des millions de prophètes en Israël. Des millions. Mais on n'a retenu que les prophéties qui parlaient du Mashiach. C'est des prophéties qui ont parlé à court terme à leur époque, qui ont dit voilà ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans. On ne les a pas retenus. Même dans 100, pas dans 200 ans. On a retenu ceux qui parlaient à la fin des temps. Et si vous allez dire, ah, c'est exagéré qu'il y ait tellement de prophètes, il y avait tellement de prophètes. Nous, on est tellement loin, on ne se rend pas compte du niveau dans lequel étaient les béné Israël à l'époque où ils étaient en terre d'Israël. Par exemple, il dit le Harizal que Asfat, c'est que le Harizal, vous savez si vous avez visité le cimetière de Sfat, vous avez eu l'occasion d'aller là-bas, le Beth Akvara de Sfat, il n'y a que les tzadikim là-bas. Alors, à chaque fois que c'est en bleu, c'est peint en bleu, c'est pour reconnaître un tombeau. Ça, c'est tous les tombeaux que le Harizal a reconnus. C'est-à-dire que lui, il a su, Beruach HaKodesh, par l'Esprit divin, il a su que cet endroit-là, il y avait tel et tel tzadik. D'accord? Il a dit sur un versant d'une montagne de Sfat, il y a 1 200 000 tzadikim gmourim qui sont enterrés. Nous, on ne comprend pas. Si quelqu'un dit, t'as rencontré un jour un tzadik. Mais tu peux imaginer des millions de tzadikim, ça? Des millions de tzadikim? On ne sait pas quel niveau de Kedusha ils avaient atteint. Quel niveau de sainteté extraordinaire ils avaient. Donc la prophétie qui est un très haut niveau de sainteté, ça se trouvait. Des dizaines de prophètes. Alors maintenant, il y en avait des millions des prophètes. Mais on n'a retenu que ceux qui parlaient là, à Tidlavo. C'est-à-dire ceux qui seront utiles au moment du Mashiach. C'est-à-dire que pour que toutes les générations elles puissent attendre le Mashiach, on a gardé les prophètes qui parlent du Mashiach. Comme ça, les gens, en relisant les textes, ça leur permettra de passer avec espoir les difficultés et les persécutions. Donc, le Gilouim, tous les dévoilements qui vont être donnés à travers ces prophètes-là, il dit, en vérité, il dit, le pshat de Rabbi Yochanan, le sens de Rabbi Yochanan, c'est que ce qui va se passer à l'époque du Mashiach, ça va être tellement fort, ça va être tellement époustouflant, que ça va mettre de l'ombre, sous-entendu, à tous les dévoilements qui ont été donnés par les prophéties. Il dit, alors, c'est pas que maintenant on va enlever les prophètes, c'est pas qu'on va déchirer les Bibles, on va dire ça, on n'a plus besoin de la fin. Non. C'est que ce qu'on va voir, les Guilouim qu'on va voir, à l'époque du Machar, ce sera tellement puissant, tellement grand, que ça va nous faire oublier, on va dire, mais c'est rien du tout ce qui s'est passé avant. Tu dis, mais quand même, il y a eu des centaines de miracles. Il dit, les miracles qu'on va voir à l'époque du Machar, c'est tellement fort, que tous les dévoilements qu'on a pu avoir avant, grâce aux prophètes, c'est rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est marqué comme ça dans la Gemara dans Brachot, d'Afiud Bet Amud Bet. Vechim Askirin Yetziat Mitzrayim Limot Mashiach. Parce que la Gemara, elle demande à partir de la Mishnah, est-ce qu'on va mentionner la sortie d'Égypte à l'époque du Mashiach? Alors la Gemara, elle dit, Ve'alok Varneema, Ine Yamim Ba'im Ne'u Mashem. Et voici que des jours vont venir, a dit Hashem. Ve'lo Yomru Ot Chay Hashem, Asher Eilet Ben Yisrael Mer Yisrayim. On ne dira plus, voici l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, comme on dit aujourd'hui, oui. On dira, ki im chay Hashem asher eele, il est vivant Hashem, le Dieu vivant, qui vous a fait monter vers Asher Evi et Zera, Bet Israël, et qui a pris toute la descendance de la maison d'Israël, mi eret safona, d'un pays du nord, ou mi kol arsot, et de tous les pays, Asher itritim sham, dans lequel ils avaient repoussé. Ça veut dire que, quand on dira, on parlera de tous les faits extraordinaires qui sont passés, quand Jourou va réunir tous les bénis Israël, avec le Mashiach, il va les amener en Eretz Israël. Donc on parlera plus de la sortie d'Égypte. Parce que qu'est-ce que tu vas me comparer à la sortie d'Égypte avec le fait que tous les bénis Israël du monde ils vont se retrouver en Eretz Israël à l'époque du Mashiach? Elle dit la Gemara. Amruno, l'oshete aker, yetzer Mitzrayim imekoma. C'est pas qu'on va déraciner la sortie d'Égypte, puisque la sortie d'Égypte c'est un fondement de la croyance juive. Oui. D'où est-ce que tu sais que Dieu est venu au mont Sinaï et qu'il a donné la Torah et que la Torah est vraie? Parce qu'on était en Égypte, et on est sorti d'Égypte, et il y a eu les miracles de la sortie d'Égypte, et il y a eu le mont Sinaï, et il y a eu les miracles du mont Sinaï, et Dieu a révélé la Torah. Donc pour nous, l'axe central de l'histoire juive, c'est le mont Sinaï. Donc la Gemara dit, on ne peut pas arracher, on ne peut pas déraciner un fait aussi fort que la sortie d'Égypte. Et là, c'était Shirvud Malchuyot Ikar Veyitseat Mitzrayim Tafel. Shirvud Malchuyot, c'est la domination des peuples. Aujourd'hui, on est sous la domination des peuples. Quelqu'un, il ne peut pas vivre à 100% comme il voudrait sa Torah. On est sous la domination des peuples. Alors maintenant, cette libération de la domination des peuples, elle va être tellement puissante, tellement forte, il dit la Gemara, que ça va te faire oublier les miracles du Mashiach, ça va te faire oublier les miracles qu'il y a pu y avoir à la sortie d'Égypte. D'accord? Et tous ces miracles-là, oui. Ça, c'est quand même moins fort que la Megillat Esther. Puisqu'elle dit, on va annuler les autres livres qui racontent les miracles qu'il va y avoir au Mashiach, mais on va pas annuler la Megillat Esther. Ça veut dire que le dévoilement qu'on trouve à travers la Megillat Esther, c'est plus grand que ce qu'on va vivre à l'époque du Mashiach. C'est incroyable. Alors nous on comprend pas, parce que si quelqu'un va dire, attends, excuse-moi, toutes les fêtes, les trois quarts des fêtes, que ce soit Shavuot, Pessah, Sukkot, que ce soit... N'ayez pas peur, hein. Non, je vois que vous êtes un petit peu... Il y a une tempête déjà. Donc, que ce soit Pessah, Shavuot ou Sukkot, même Shabbat, c'est Zecher Yetziat Mitzrayim. Oui, c'est en souvenir de la sortie d'Égypte. Quand vous faites le kiddush, vous dites Zecher Yetziat Mitzrayim. Pessah, c'est en souvenir de la sortie d'Égypte. Shavuot aussi, par rapport au don de la Torah, c'est lié à la sortie d'Égypte. Sukkot, c'était quand ils étaient dans le désert à la sortie d'Égypte, ils ont dormi dans des cabanes où ils étaient entourés par les nuées de protection. Donc, tout ce fondement-là, et on te l'explique, et jour après jour, il y a une mitzvah de parler de la sortie d'Égypte tous les jours. Et la raison pour laquelle on fait le troisième passage du Kriyat Shema le soir, c'est pour rappeler la sortie d'Égypte. Et à part ça, on doit fêter la fête de Pessah, et toute la nuit, on parle de la sortie d'Égypte. Donc la sortie d'Égypte, pour nous, c'est quelque chose qui est fondamental. Et voilà que maintenant, avec tout ce que je vous crois organisé pour ça, pour pouvoir l'enseigner, voilà que maintenant, on va arriver à l'époque du Mashiach, on va dire maintenant, on oublie la sortie d'Égypte, on va s'occuper de la Megillat Esther. Tu dis, mais la Megillat Esther, c'est un événement, encore une fois, qui est ponctuel. Alors, il faut essayer de s'imaginer quel genre de miracle on va pouvoir voir. Ouais. À l'époque du Mashiach, qui va nous faire oublier la sortie d'Égypte, Et comment la Megillat d'Esther, elle peut nous faire oublier les miracles du Mashiach. Vous avez fait le calcul, d'accord? Alors, c'est comme ça. Hein. Il dit le Raphaël Friedlander, il dit c'est vrai qu'il y a eu des miracles extraordinaires à la sortie d'Égypte. Il dit, mais si tu regardes bien, la différence entre les miracles de la sortie d'Égypte et le miracle d'Esther, c'est que l'histoire d'Esther, ça ne se voit pas que c'est miraculeux. Il n'y a rien de miraculeux dans l'histoire d'Esther. Pourquoi? Il dit, ça s'appelle Esther Betor Ateva. Esther, ici c'est pas la reine Esther. Esther, c'est ce qui est caché à l'intérieur de la nature. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé au moment de l'histoire d'Esther, si vous lisez la Megillah, eh ben il n'y a rien d'anormal. Par exemple, le roi, il convoque la reine Esther. Bon, il a bien bu pendant 8 jours, il a la tête un peu qui lui tourne. Il demande à faire venir la reine Esther. Seulement, il lui demande de venir en tenue sans bikini, d'accord? Elle refuse. Bon, elle fait ce qu'elle veut. Le roi, il s'énerve, il la fait exécuter. C'est normal, elle désobéit. D'accord? Il n'y a rien d'anormal. Comme elle a désobéi, automatiquement, on dit qu'il faut donner une autre reine au roi. C'est logique, puisqu'il n'a plus la reine, il en faut une autre. Bon, on prend Esther. Mais on aurait pu prendre une autre. On a pris Esther. Donc il n'y a rien d'anormal. Après, il y a un complot contre le roi. Qui c'est qui trouve le complot et qui évite le complot? C'est Mordechai, qui est l'oncle d'Esther. Il n'y a rien d'anormal. Tous les faits de la Megillah, vous pouvez les regarder comme des faits normaux. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas la mer qui va s'ouvrir. C'est pas des bêtes sauvages qui vont envahir la ville et qui vont tuer tout le monde. C'est pas la vermine qui va se déclarer. C'est pas l'obscurité qui va envahir tout un pays. C'est pas des choses extraordinaires. C'est normal. C'est-à-dire qu'on n'a pas remis en cause la nature des choses, ouais, au moment de la fête, au moment de l'histoire de Pourim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque élément en soi, il est normal. On peut même dire qu'il est de nature de coïncidence. Mais quand tu fais le lien entre tous les éléments, ça donne une histoire extraordinaire. Ça veut dire que le lien entre les événements, il donne une finalité qui amène à la délivrance et qui amène au miracle. C'est vrai que grâce à tous ces éléments-là, qui sont un montage d'une précision atomique, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de relire la Megillah ou de lire des livres qui ont été écrits sur la Megillah, mais si vous réfléchissez, toute la Megillah, c'est d'une précision atomique. Mais cette précision-là, elle est tout à fait transparente. Par exemple, pourquoi est-ce que... Alors, c'est marqué, le roi était à Shushan, la ville de Suse, d'accord? Mais pourquoi le trône du roi... pourquoi est-ce que le palais du roi était à Suse? À l'origine, c'est pas la capitale. Parce que le roi, il a voulu avoir le même trône que Shlomo HaMelech. Après, je vais voir s'il voulait le même trône. Mais les orfèvres qui étaient capables de faire ce trône, ils habitaient à Suse. Donc il a dit qu'il fallait construire le trône à Suse. Ils ont commencé à construire le trône. Maintenant, quand ils l'ont construit, il était tellement gros, ils n'ont pas pu le déplacer. Alors il a fallu qu'ils installent toute la cour royale à Shushan. Maintenant, qui c'est qui habite à Shushan? Mordechai et Esther. Maintenant, à Kadosh Baruch Hu, oui, il préfère déplacer toute la cour et le roi avec une espèce de fantaisie qui s'appelle de vouloir construire le trône, que de déplacer Mordechai et Esther. Donc on a fait ça, d'accord? Pour qu'ils puissent s'installer là-bas. Maintenant, le roi, par exemple, lui, avant, il était palefrenier, Achashverosh, il était le palefrenier du père de Vashti. Elle, c'était une vraie princesse. Mais lui, c'était un paysan. Maintenant, lui, il a grandi par... parce qu'il a épousé la fille de la reine. Donc la fille de la reine, elle a un ascendant sur lui. Donc quand lui, plus tard, il va lui demander de se présenter toute nue, ouais, elle va lui dire, j'ai pas d'ordre à recevoir, on n'a pas le palefrenier. Donc puisqu'il était pas le palefrenier, il était complexé. Comme il est complexé, il le prend mal. Comme il le prend mal, il l'a fait tuer. Puisqu'il l'a fait tuer, on ouvre la porte à Esther. Qui c'est qui fait rentrer Esther? Aman. D'où elle va venir la perte de Aman? De Esther. Aman, il fait rentrer Esther, et en rentrant Esther, il rentre son couteau. Est-ce que vous comprenez? Toute la Megillah, elle est comme ça. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Pourquoi le roi, oui, il a pensé à récompenser, il n'arrivait pas à dormir. Parce qu'il avait un problème sur la conscience. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il convoque les chroniques, qu'on lui lise les chroniques. C'est là qu'on lui rappelle qu'il n'a pas récompensé Aman, Mordechai. Le même soir où Aman, il veut faire condamner à mort et faire pendre Mordechai. Donc lui, il vient tout chaud pour le faire pendre, il vient en pleine nuit. Le voyant venir, alors que la veille, il a été invité par la reine, il se dit, mais peut-être que Aman, il convoite et le trône et ma femme. Donc il a peur d'Aman. Il fait un cauchemar, il rêve qu'Aman est en train de l'étrangler. Il ouvre les yeux, qu'est-ce qu'il voit devant lui? Aman. Qu'est-ce qu'il va lui demander à Aman? De faire tuer quelqu'un qui a sauvé la vie du roi. Donc depuis le complot, d'accord, on a préparé la reconnaissance que le roi, il aura envers Mordechai et qu'il va planter Aman. Vous avez compris, non? Tout est mécanique, tout est construit là-dedans. C'est un sac de nœuds de mécanique. J'ai fait une fois un mardi soir, j'avais expliqué tout ça pendant 2 heures. Là, j'ai jamais eu le courage de refaire ce cours parce que ça m'avait pris une semaine de préparation, j'avais une tête comme ça, pour me rappeler tous les détails. Mais, à l'occasion, si vous voulez, vous pourrez l'écouter. Mais en tout cas, ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que chaque élément en soi, il est tout à fait normal. Il n'y a rien d'extraordinaire. Vous comprenez? On n'a pas dit que d'un seul coup, le ciel, il s'est ouvert. À ce moment-là, il est venu, il a pris Aman, il l'a enflammé en plein milieu de la ville de Susan. Rien à voir avec les miracles de la sortie d'Égypte. On peut même dire qu'à Pourim, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Mais seulement que quand tu fais un lien entre tous les événements, ça fait quelque chose de miraculeux. C'est pareil. Comme dans le business, des fois. Tu dis, bon, comment t'es devenu riche? Ben moi, je sais pas, j'avais mal au ventre. Alors je voulais une tisane, je savais pas où la prendre. J'étais à la pharmacie, je n'en avais pas, je suis rentré au resto, j'ai dit, excusez-moi, je suis gêné, mais est-ce que je peux vous demander une tisane parce que j'ai très mal au ventre? Elle m'a dit, asseyez-vous, vous êtes sympathisé avec le type. En face, il y avait vous êtes vous aussi, vous êtes Douzda? Ah oui, je suis Douzda. Ah bah alors, et alors qu'est-ce que c'est? Et ben voilà, ah tiens, ben moi je suis venu pour un rendez-vous, le type n'était pas là, mais en fait, et vous travaillez dans quoi? Ah bah justement, je cherche. Ah bah hop, 1 million de francs. Mais non, si tu vas expliquer à un type qui fait HEC, tu fais HEC, grande école commerciale, alors je vous explique, c'est très important d'avoir mal au ventre. L'autre, il comprend rien. Comment il fait? Mal de ventre, traverse la rue, pas de pharmacie, café, tisane, Oujda, 1 million de francs. Tu peux faire toutes les équations, t'arriveras pas à ça. Tu n'y comprends pas, j'ai fait 20 ans. 10 ans à l'ENA, 4 ans à Dauphine, 8 ans MBA de Tralois. Oujda. Maintenant tu peux philosopher, quelle était la part de la tisane, quelle était la part d'Oujda, ça ne s'organise pas. Maintenant chaque fait en soi, il prouve rien, la preuve, toi tous les jours t'as mal au ventre, et le million... Tous les jours, la tisane, je dis, demain peut-être, demain. Oui, et tous les gens du ZA, ils sont pas tous milliardaires. Ça n'a rien à voir. Chaque élément en soi, ouais, il vaut rien. Mais quand il rentre dans une mécanique d'engrenage, il produit un miracle. Donc l'intersection de faits normaux qui amènent un miracle n'a rien à voir avec l'intersection de faits extraordinaires, comme la sortie d'Égypte. À dire, la nature spécifique de la fête de Pourim, c'est qu'elle démontre le côté extraordinaire de la normalité. Ce qui n'a rien de spécial. Alors, c'est comme ça. Il dit, mais quand même, est-ce qu'on peut imaginer que quand je regarde ça, quand je relis la Megillah d'Esther, ça va me faire oublier, comme disait Agmara, tous les miracles. Ça veut dire ça, ça va faire de l'ombre sur tous les miracles. Oui, c'est comme si, par exemple, dans les films de science-fiction, à chaque fois quelqu'un essaye de trouver encore une idée encore plus folle, mais l'idée d'après elle est encore plus folle. Mais comment tu pourrais imaginer qu'un truc tout à fait normal, ça pourrait faire de l'ombre à quelque chose d'extraordinaire? C'est pareil. Il dit, tu imagines maintenant ce qui est marqué, que quand les gens ils vont relire la Megillah d'Esther, à l'époque du Mashiach, ouais, ils diront, les miracles de la sortie d'Égypte à côté, c'est rien du tout. C'est bizarre, cette logique-là. Alors, le Maharal de Prague, il ramène une question qui est posée par le Ralbag. Il dit comme ça, Il dit, bon, d'accord, Akadosh Baruch Hu, il a fait ce qu'on appelle le normal et l'anormal. Il a fait le Nes, c'est le miracle, et le Teva, la nature. Maintenant, le déplacement normal des choses, on appelle ça la nature. Maintenant, quand il y a quelque chose d'extraordinaire, on appelle ça le Nes. Lui, il demande le Ralbag, il dit, mais en quoi on voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu à travers les miracles? Parce que les gens, toujours, ils aiment les miracles. Ils disent, tu sais, j'étais chez un rabbin, oh, il m'est arrivé ça, ou alors j'étais truc, puis il m'est arrivé ça. Oh. Mais pourquoi les gens, ils sont époustouflés par les miracles? Il dit, mais c'est pas normal de voir, de chercher la grandeur d'Hachem dans les miracles. Pourquoi? Parce que si Akadosh Baruch Hu, il est obligé de faire quelque chose d'extraordinaire, c'est donc que la création n'était pas parfaite, et qu'il est obligé de la parfaire par des espèces de bricolage de dernière minute qui s'appelle un miracle. Elle est bonne cette question. Il dit, si un jour il a tout prévu, si tout est parfait, il n'y a pas besoin de venir au dernier moment. Oh, vous comprenez ou non? Est-ce que vous comprenez? Il y a quelqu'un qui marche. Il marche, d'accord? Mais il y a une peau de banane. Mais lui, il est très occupé à lire son journal. Puis on vient de lui apprendre que le Nasdaq, il a pris 2000%. Donc, il pense pas à la peau de banane. À ce moment-là, il y a Superman qui arrive, il écarte tous les immeubles, ouais, il fait un trou de 11 km de large, il arrive, il enlève la peau de banane, sans que l'autre s'en aperçoive, parce qu'il est invisible, Superman. Et l'autre, il continue à marcher, et il ne s'est rien passé. Oui ou non? Ou t'as quelqu'un qui vient doucement, il voit le type arriver, il réfléchit, il voit la peau de banane, il enlève la peau de banane, et l'autre, il continue à marcher. Qu'est-ce que t'as besoin de Superman? Qu'est-ce qu'on a besoin d'arracher? Il dit, on a enlevé la moitié de New York, mais il n'est pas tombé sur la banane. Il dit, oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec tous les immeubles? Ça veut dire, il demande le Ralbag, qu'est-ce qu'on a besoin des effets spéciaux? Pourquoi faire des effets spéciaux? Tiens. Ouais. Il dit, pourquoi des effets spéciaux? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin du miracle? Si Akadosh Baruch Hu représente la perfection, donc il ne devrait pas y avoir des systèmes de rattrapage. Alors, restez concentrés s'il vous plaît. Non, parce que le cours il est... C'est une Megillah, alors là je... je pourrais pas trop blaguer ce soir parce que j'ai trop de longueur à faire. Après vous allez me dire, ah, il est loin le cours. Bon. Ouais, bon. Et alors... Alors, Le Maharal de Prague, il répond à cette question, il dit une réponse extraordinaire. Il dit, toi le Ralbag, pourquoi tu as cette question? Parce que toi tu crois que la nature, c'est quelque chose qui est organisé. Et le miracle, c'est quelque chose qui est désorganisé. C'est un truc de dernière minute, on fait ce qu'il faut pour que ça marche. Mais en vérité, il dit le Maharal de Prague, de la même manière qu'il y a une logique interne à la nature, et tu la vois parce qu'il y a des mécaniques dans les causes-conséquences, de la même manière, il y a une logique interne avec le miracle. Le miracle aussi, il a sa logique, il a son cheminement, il a sa trace intellectuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit de la même manière qu'il y a un ordre établi dans la nature, il y a un ordre établi dans les miracles. Donc il n'y a rien d'anormal au miracle. Nous on dit, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que regardez, imaginez, voilà, j'ai un mur là, mais j'ai un mur qui est noir. Et il y a une fente dans le mur. Il y a une brèche qui se fait, et il y a une lumière extraordinaire. Alors moi je dis, oh, à cet endroit-là, il y a une lumière. Je dis, mais t'as rien compris. Tout le long du mur, il y a une lumière. Mais là, il y a une brèche. De la même manière qu'il y a ce monde de la nature, ici, il y a le monde du surnaturel de l'autre côté. Mais le surnaturel, il est géré et construit derrière, comme le monde naturel, il est géré et construit devant. Donc il dit le Maharal de Prague, toi tu dis c'est pas normal, il dit mais parce que toi tu as compris que ici il s'est passé quelque chose d'anormal et ici c'est le normal. Il dit mais il y a une normalité blanche et une normalité noire, des deux côtés, comme la matière et l'antimatière. Tu dis pas que ça, là-bas c'est désorganisé et c'est ici c'est organisé. C'est organisé d'une autre manière, mais c'est aussi organisé. Où c'est marqué ça? Parce que c'est marqué dans le Midrash, Amar Rabbi Yossi, Tanaïm, il dit comme ça, Itne Akadosh Baruch Hu, Imayam, Shiyenikra, Lifne Israël. Akadosh Baruch Hu, depuis qu'il a créé la mer, au début de la création du monde, depuis qu'Akadosh Baruch Hu il a créé la mer, il a fait une condition à la mer qu'elle s'ouvre devant les Béné Israël. C'est que quand les Béné Israël vont se présenter et qu'ils sont poursuivis par les Égyptiens, Akadosh Baruch Hu il a dit à la mer, attention, il faudra que tu t'ouvres. Donc, ça veut dire que c'est géré tout ça. C'est pareil. On dit aussi ailleurs que Ajourou, au moment les 10 dernières choses qu'il a créées au moment de la création du monde, parmi elles, il y a le fait que la terre va s'ouvrir en dessous de Korach. Donc la terre s'est programmée qu'elle va s'ouvrir. Que l'ânesse de Bilam, elle va parler, c'est ainsi. Donc toi tu dis, attends. Il y a une normalité, les ânesses ne parlent pas. C'est vrai. Mais dans la normalité que les ânesses ne parlent pas, il y a une exception qui s'appelle l'ânesse de Bilam, qui parlera. Donc ça rentre dans la nature maintenant. Qu'il y a une logique interne de gestion du miracle, et il y a une logique interne de gestion de la normalité. Elle continue le midrash. Amar Rabbi Yirmiya, ben Eleaza, il a dit Rabbi Yirmiya, fils de Eleaza, lo imayam bilva ditna kadosh bohu, et la im kol machinivra, bechechet ime bereshit. C'est pas seulement avec la mer que kadosh bohu il a posé la condition, mais avec tout ce qui a été créé, excusez-moi, au moment de la création du monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les miracles, en vérité, font aussi partie d'un ordre établi. Maintenant, il est quand même d'accord, le Maharal de Prague, avec le Ralbag, que c'est vrai qu'on aurait plus vu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu si Hachem n'avait pas eu besoin de faire un miracle. Ouais. Que si Akadosh Baruch Hu, il a dû organiser et le normal et l'anormal en combinaison pour réparer, entre guillemets, les dysfonctionnements de la normalité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que les choses se passent normalement, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ça on le voit au niveau universel. Mais je vous donne un exemple au niveau humain pour que vous compreniez que c'est la même chose. Quand vous voyez quelqu'un de normal, vous dites un type normal, par exemple quelqu'un, on le met sous pression, il ne crie pas, ouais. Il a un problème, il ne détruit pas, il a une remise en cause, il ne déprime pas, il est normal. Puis bon, il y a des choses dans la vie, il y a des bonheurs, il y a des malheurs. Maintenant, quand il a un bonheur, il ne devient pas euphorique. Bon, ça va. Il se perpétue dans le mouvement. Il a une sérénité qui lui permet de se déplacer à travers la vie, d'accord, d'absorber les chocs négatifs, d'absorber les chocs positifs, et il existe normalement. Donc vous dites, eh ben c'est un type normal. Alors si vous voyez un type qu'on lui raconte une blague, il rigole pendant 18 jours. Il a un problème, lui. Si vous voyez quelqu'un, il lui arrive un truc, bon, il a perdu un ticket de métro, waouh, il rentre en déprime, 8 ans de thérapie. Attends, il y a un malaise. Alors vous vous dites, il n'est pas normal. D'accord. Maintenant, d'être normal, c'est quelque chose, regardez bien, qui est, on va dire entre guillemets, normal. Mais d'un autre côté, c'est faux. Parce que quand vous voyez ce que vous appelez vous des gens normaux, par exemple, vous dites, tiens, celui-là, ceci, on lui a appris que son frère était très malade. Bon, bah écoute, il a bien pris. Bon. Tiens, celui-là, on l'a planté d'1 million de francs, et il a été capable d'aller voir le type, de dire, viens, on s'arrange. Alors que nous, on a sorti un fusil à canon scié. D'abord, on lui met dans la bouche, on lui fiche à colle. On discute. Ouais. Ça veut dire que une réaction normale dans le vécu, en vérité, c'est le fruit d'une machine extrêmement complexe à l'intérieur. Qu'on appelle les midotes. Quand tu vois quelqu'un qui a des midotes, il a des qualités, il a des valeurs. Mais ça se voit. C'est-à-dire qu'il a travaillé. Parce que la normalité de quelqu'un, dans la moyenne, c'est que les gens ne se travaillent pas. Donc ils sont impulsifs, ils sont nerveux, ils sont susceptibles, ils sont détruits, ils sont au bord de l'angoisse, au bord de la déprime. Ils sont fragiles, les gens. Donc quand tu vois quelqu'un qui est solide et qui se perpétue dans la solidité, ouais, quand tu vois quelqu'un qui se perpétue dans la solidité, c'est extraordinaire. Maintenant, si quelqu'un te dit, moi, tu sais, moi, je t'ai cassé la figure, mais j'aurais pu me retenir. Je t'ai insulté, mais je sais que c'est pas bien de le faire. Qu'est-ce que tu dis, toi? Si c'est un malade. Oui, mais j'en suis conscient. C'est un malade conscient. Vous comprenez ou non? Alors que le contraire. Par exemple, tu énerves quelqu'un, t'es pas bien, tu l'énerves. Après, lui dit rien, bon, écoute, c'est pas grave et tout, bon, d'accord, on va s'arranger, on va trouver une solution. Bon, il te calme et tout. Après, tu reviens, après tu réfléchis, toi tu te remets dans tes nerfs et tu dis, mais... Il est de folie, ce type-là. Dis-moi un type qui m'aurait fait ce que moi je lui ai fait, mais je lui aurais cassé la figure. Et lui, il n'a rien dit. Donc quand tu vois quelqu'un qui absorbe comme ça, et qui remet en ordre normalement les choses qui a priori auraient dû provoquer une crise, ça veut dire que celui qui gère la crise en anticipant la crise et qui évite la crise, il est meilleur qu'un type que s'il y a la crise, il est l'homme de la situation. Vous comprenez ou non? L'autre qui te dit, moi je me balade avec un pot de confiture, je fais des tâches, mais je nettoie les tâches. L'autre qui dit, moi, je ne fais pas de tâches. Qu'est-ce qui est mieux? C'est pareil. C'est vrai que Akadosh Baruch Hu, le fait qu'Akadosh Baruch Hu peut montrer sa puissance en faisant des miracles et en sauvant les Béné Israël d'une menace mondiale, c'est beau. Mais si elle n'arrivait même pas à la menace, ça c'est plus beau. Ce qu'il dit le Maharal de Prague. D'accord? Alors si c'est comme ça, hein. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est obligé de changer. Il dit ça, c'est la première spécificité de la fête de Pourim par rapport aux autres fêtes. C'est que tout le déroulement de l'histoire de Pourim, ça s'est passé sans contradiction avec un cheminement logique dans la nature, normale. Une histoire, on te raconte une histoire, tu dis bon, c'est bien. À la limite, entre guillemets, t'es même pas obligé de dire Baruch Hashem. Tu racontes une histoire de Pourim à un goy. Il va pas dire Baruch Hashem. Il va dire, c'est une belle histoire. Vraiment, c'est une belle histoire. Pourquoi? Parce qu'il voit que c'est logique. Il voit ça, ça s'est entraîné, ça s'est entraîné, ça. Oh, ils appellent ça un heureux concours de circonstances. C'est vrai, c'est quand même, bah tu sais quoi? Eh ben c'est une belle histoire. Franchement, tiens, reprends un petit blanc, c'est une belle histoire. D'accord? Donc tu peux regarder l'histoire de Pourim comme une suite d'événements normaux. Ça c'est première caractéristique. Deuxième, c'est que la nature elle-même, dans son fonctionnement, par l'enchaînement des événements, elle t'a montré que dans la finalité, c'était la volonté d'Hachem qui fonctionnait. Et ça c'est encore plus beau. Au lieu que toi tu vois, ouais, ça va pas, et Hachem il arrive, il arrange tout. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois un cheminement, 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 cheminement. Jusqu'au dernier moment, tu dis, peut-être que le monde y marche tout seul, et au dernier moment, on te montre. Pourquoi? Grâce au lien entre tous les événements que Akadosh Baruch Hu, il était là. C'est plus éducatif que de mettre une vérité en face de quelqu'un. Et c'est aussi dans le relationnel avec quelqu'un, c'est pareil. Si quelqu'un, t'as un problème, il te rend service. T'as un problème, il te rend service. Mais si quelqu'un, tu l'as toujours côtoyé, mais après, à sa mort, quand tu vas pour l'enterrer, tu dis, ouais, c'est un type qui avait pas de communication, il s'occupait pas de moi. Tous les gens, ils viennent te voir, ils disent, tu sais ce qu'il a fait pour toi? Tu te rappelles ce problème que tu as eu? C'est lui qui l'a arrangé. Qui c'est qui a fait ça? 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 Oh, après, tu vois qu'il est intervenu 1,5 million de fois dans ta vie. Tu dis, moi, je lui ai jamais dit merci. Mais lui, il l'a pas fait pour ton merci. Alors, sa grandeur, elle va être plus grande quand tu vas voir à la fin tout ce qu'il a fait pour toi. Ou quand, au fur et à mesure, tu t'en rends compte et tu te dis merci. Deuxièmement. Quand l'intervention de l'autre, elle est moins grande, ça te permet de plus exister. Mais si l'autre, il y a toujours là, le vengeur, ou le sauveur, et il intervient à ta place, donc toi, il t'empêche d'exister. Alors qu'est-ce qui est mieux pour toi? Quelqu'un qui est absent et qui te permet de grandir, ou quelqu'un qui tient la situation, mais qui est tellement présent, qui t'empêche d'exister? Dans Pourim, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, dans sa semi-absence, oui. Il a permis aux Bnei Israël d'exister, puisque la Gemara, elle dit que les Bnei Israël, à l'époque du mont Sinaï, ils ont accepté la Torah de force, parce que Hachem leur a mis une montagne sur la tête, mais à l'époque de Pourim, ils l'ont reçu de plein gré. Donc ce potentiel des Bnei Israël qui reçoivent la Torah de plein gré, il est né grâce à l'histoire de Pourim. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il s'est mis de côté. Mais si Hachem, il était intervenu tout de suite, les Bnei Israël, jamais ils auraient évolué. Comme un enfant, il assume pas, il assume pas, il assume pas. D'accord? Si tu es toujours là pour lui régler son problème, il assumera jamais. Mais si tu lui dis, écoute, excuse-moi, j'ai un problème, je dois partir, débrouille-toi. Le gosse, il va faire, oh, mais papa, papa! Et il va se débrouiller. Ah ben tu dis, bah au prochain que j'ai eu ce voyage. Parce qu'à force d'intervenir, je me suis pas rendu compte que j'étais en train de le pourrir, mon fils. Mais maintenant que j'étais obligé de partir, alors je lui dis, si tu avais été intelligent, tu aurais même fait exprès de partir. Pour que lui, il trouve un espace de liberté dans lequel il va se réaliser. Donc Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, par son absentéisme, dans l'histoire d'Esther, il a obligé les Bnei Israël à réagir, et cette réaction, ça a été une nouvelle Kabbalat HaTorah, ils ont reçu à nouveau la Torah, et ça c'est une chose qu'ils n'avaient jamais vécue. Comment ça? Par l'absence. Donc la révélation finale, elle est plus profitable que la révélation du début. Et ça c'est la deuxième caractéristique de la fête de Pourim. Si c'est comme ça. Ça veut dire que cette notion-là, elle dévoile plus la grandeur d'Akadosh Baruch Hu que les miracles. Maintenant, pour comprendre ça, il faut aller plus loin. C'est marqué dans le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, dans Dat Vunot Amud Mem'e Siman Nun Dalet, pour les gens qui veulent vérifier ce soir. Hein. C'est marqué comme ça. Kivadai bechol mida ou mida. Car c'est sûr que dans chaque qualité, c'est-à-dire dans chaque attitude qu'Ajbourou va avoir avec l'homme. En bemaase tov, que ce soit dans un acte bon, vechesed, de bonté. En bemaase onesh veishurim, que ce soit dans une punition ou dans des difficultés. C'est-à-dire que Akadosh Bourou, quand il s'adresse à moi pour le bien, ou que Akadosh Bourou s'adresse à moi pour le mal, oui, je prends une telecha. Je dis, c'est Akadosh Bourou. Je prends une bonté. C'est Akadosh Bourou. C'est où Idvarach modède l'anou, que je vous prie, il va se conduire avec nous. Nifrin, Sne, Inyanim. Regardez bien. Il faudra considérer, séparer deux sujets. Anire, Vanistar. Ce qui est voyant, ce qui apparaît à la face externe. Vanistar et ce qui est caché. Daïnou. Anire ou Srar Veonesh. Ce qui apparaît à l'extérieur, c'est la récompense et la punition. Lemi, Shenim Deda, Lo, Chem, Amida, Aï. Pour celui, que cette attitude-là, elle lui est appropriée, les filles machéi, selon ce qu'elle est, atova imra, soit bien ou mal. N'en faites pas, tout ça, je vais vous le traduire en français. Maintenant, anaga tanisteret, après la conduite d'Akadosh Baruch Hu qui est cachée, c'est quoi? C'est peulata le avi et abriya el shlemuta. C'est l'action de Dieu pour amener la création à son entité. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais vous expliquer ça. Mais là, il faut avoir un recul, on va dire, sur toute la création du monde. Vous voyez, quand on est vivant, que ce soit au niveau ponctuel ou que ce soit au niveau universel, il y a toujours deux dimensions qui se passent en même temps. Il y a une dimension personnelle qui s'appelle ma vie. Et il y a une dimension universelle qui s'appelle le projet d'Hachem. Maintenant, le projet de Dieu et le projet humain se superposent. Parce que quand vous cumulez tous les projets humains, vous avez la trame du projet de Dieu. Maintenant, le projet de Dieu, il s'inscrit à travers le projet humain, d'accord? Ou alors, le projet de Dieu, il se réalise à travers le projet humain, mais il y a une dimension qui sera une dimension humaine, et il y a une dimension qui sera une dimension divine. Je vous donne un exemple. Pourquoi c'est Akadosh Baruch Hu qui décide de la Parnassa, qui décide du couple, du partenaire, et qui décide des enfants. Pourquoi? Parce que c'est les trois choses qui font intervenir une interaction dans l'espace et dans le temps. Ta parnassa, elle est liée à des milliers de personnes. Parce que tu vois, tu vends tel produit, c'est lié à tel client, tel producteur, telle situation géographique, telle implication politique dans le pays d'où ça vient, tel marché, tel besoin, telle demande, tel mode, telle ambiance, tout ça, ça fait impliquer des millions de personnes. Donc, un jour, c'est lui le gestionnaire, parce qu'il y a des millions d'intervenants. Maintenant, dans le temps, c'est parce que quand tu veux te marier, que tu le veuilles ou non, on parle de ton avenir, tu vas épouser une femme, tu vas épouser un mari, d'accord? C'est pas que toi tu dis, bon, moi j'ai épousé la femme de ma vie, mais ça va être la mère de tes enfants, ça va être la grand-mère de tes petits-enfants, ça va être l'arrière-grand-mère de tes arrière-petits-enfants. Donc c'est à long terme. Donc comme c'est très très à long terme, il faut qu'elle se bourrouille, ils mettent ensemble les maillons de la chaîne. La chaîne, elle démarre depuis Avraham et Sarah, elle s'arrête avec le Mashiach, avec la fin des temps. Donc, que tu le veuilles ou non, tu es en même temps une personne personnelle et en même temps un maillon d'une longue chaîne. Donc, pour que ce maillon soit solide, à Kadosh Baruch Hu, il dit, il y a des règles. Alors, par exemple, il y a des règles que de se marier avec une Bat Israël, avec une femme juive, c'est une règle, parce que c'est ce qui permet de conserver la chaîne. De maintenir une religiosité, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a promis que la Torah, elle existera jusqu'au Mashiach. Il n'a pas promis que les Juifs existeront jusqu'au Mashiach. Il a promis que la Torah existera. Donc si tu es dans la Torah, tu vas perpétuer. Si tu n'es pas dans la Torah, tu seras dans la Bretagne. D'accord? Donc c'est normal, oui. Donc, maintenant, à Kadosh Baruch Hu, sur ces milieux-là, les enfants qui vont être la perpétuité, le conjoint qui va être la perpétuité, la parnassa qui va être l'interaction, il est obligé. Parce que toi, est-ce que tu peux savoir qu'en épousant telle femme, tu vas avoir tel descendant, qui aura telle amplitude. Ça, c'est à ton niveau. Maintenant, au moment où les parents conçoivent l'enfant, eux, ils vont s'occuper de fabriquer un corps. Ils vont faire se rencontrer des semences, une semence féminine, une semence masculine, et ça va fabriquer un corps. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il va décider quel neshama il va mettre dans ce corps. La neshama, elle fait partie d'un circuit qui s'appelle l'évolution de toutes les âmes depuis l'âme de Adam Harishon. Et le corps de cet enfant, il fait partie d'un autre circuit qui s'appelle la gestion des molécules à l'intérieur de la masse des molécules physiques du monde. Ton corps, c'est une molécule, c'est des molécules qui viennent de molécules. Rien ne se perd, tout se transforme. Donc le nombre de molécules, il a surexisté. Peut-être que avant la molécule qui va fabriquer ton corps, peut-être qu'elle vient, je sais pas moi, d'un buffet. D'un poirier. D'accord? T'en sais rien. Oui ou non? Rien ne se perd, tout se transforme. Donc, à Kadosh Baruch Hu, il a une aventure, on va dire, physique à gérer, une aventure spirituelle à gérer. La redistribution des neshamot, des âmes, à l'intérieur des corps, n'obéit pas à la même règle que la redistribution des molécules à l'intérieur des corps vivants ou des corps inertes. Est-ce que vous comprenez? Ces cailloux-là, d'accord? Ils roulent dans la montagne, là-bas, dans les Alpes. Donc ils s'usent. En s'usant, ils produisent du calcaire qui est dans l'eau. Cette eau-là, elle fait une eau calcaire. Cette eau-là, elle arrive sur ta table, tu bois de l'eau calcaire. Donc cette eau calcaire, tu la bois, elle s'inscrit, hop, dans la progression de l'évolution de tes os, et hop, il y a des os, des cailloux de la montagne, qui sont maintenant, ils font partie de tes os. Tu vas mourir à 120 ans, on va te mettre dans un cimetière, ces os, ils vont se désagréger, et hop, ils vont s'intégrer à l'humus. Dans 250 ans, on va déplacer le cimetière, on va déplacer la tombe, hop, ce calcaire-là, on va le remettre ailleurs, il va encore s'accumuler, il va faire un caillou qui va rouler dans la montagne. Il y a une aventure au niveau moléculaire, il y a une aventure au niveau Neshama. Maintenant, la Neshama, elle n'a rien de personnel, elle est totalement divine. Elle fait un travail en passant par différentes générations. Maintenant, elle vient ici parce qu'elle fait un travail, parce que dans la génération d'avant, elle a fait un travail, dans la génération d'avant, elle a fait un travail, dans celle d'avant, elle a fait un travail, elle travaille. Les deux aventures se superposent, mais ne sont pas les mêmes. Maintenant, que tu le veuilles ou non, tu as une Neshama et tu as un corps. Tu es obligé de gérer les deux entités en même temps. Maintenant, en ce qui concerne ton vécu personnel, quand tu dis « je », tu vas vivre 70, 80, 90 ans, d'accord? Toi, dans ta vie à toi, c'est un segment, un vecteur, à l'intérieur de la ligne directrice de toute la nature humaine, depuis la création du monde jusqu'à la fin. Ce vecteur-là, il est concerné personnellement par un temps de vie, des circonstances de vie, un milieu familial, un climat psychologique, un climat physique, un endroit où est-ce que tu vas le faire, des moyens qu'on va donner pour t'épanouir. Des punitions, des récompenses. Ça s'appelle le niglé. Le niglé, c'est la face voyante qui te concerne. Le nistar, c'est quoi? C'est derrière ce décor physique, toute la trame spirituelle qu'on met en place pour arriver à ton projet personnel, et en même temps, qui amène le monde à sa finalité totale, qui est Mashiach. Est-ce que vous me suivez? Ça va? C'est pas prêt encore? Voilà. Je répète ça? Juste le principe. Juste avoir dans la tête qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension physique qui me concerne, qui est personnelle. C'est moi et Dieu. Moi, je fais des mitzvot, Dieu me récompense. Je fais des averot, Dieu me punit. C'est moi et moi. Maintenant, mes mitzvot à moi, elles ne concernent pas mon grand-père, et elles ne concernent pas mes petits-enfants, pour l'instant. Parce que eux, ils sont concernés au niveau génétique, parce que je vais imprimer des choses chez moi. Mais pour ce que je vais vivre maintenant, c'est moi et moi. Par contre, la trame souterraine, d'accord, que je produis, l'énergie que je déplace par le fait que je fais du bien et le fait que je fais du mal, elle contribue à amener le monde à sa finalité qui s'appelle le Mashiach. Maintenant, moi, dans cette énergie-là, on va dire une énergie qui est au-dessus, ouais, cette énergie-là, elle a rien de personnel. C'est moi qui la produis pour vivre, et en même temps, je participe au projet divin qui s'appelle d'amener Mashiach. Mais cette trame-là électrique que je fabrique, elle est impersonnelle. Elle fait partie du projet divin qui est d'amener Dieu à sa finalité. Maintenant, pour amener le monde à sa finalité, il a des millions d'ouvriers qui s'appellent les destinées personnelles de chacun. Ça va? Ça va. Alors...
Ça veut dire que l'âme qu'on avait avant, aujourd'hui on a tous une âme qui a déjà travaillé?
Aujourd'hui oui, c'est sûr. Parce que depuis le Baal Shem Tov, on a tous des âmes qui reviennent. On a plus, il n'y a plus d'âme entière aujourd'hui, il n'y a que des âmes qui ont déjà fait un travail et qui ont besoin de finaliser un travail. Ça n'existe plus les âmes complètes. On n'a pas les épaules pour avoir une âme complète. On fait sauter les circuits. Alors, Si Hachem se conduit, alors attention maintenant. Donc Anaga Glouya, c'est quoi? La conduite, l'attitude d'Akadosh Baruch Hu dévoilée, c'est comment est-ce que Akadosh Baruch Hu, il se conduit selon nos actes à nous, quand il nous récompense pour le bien ou il nous punit pour le mal, ou il nous donne la possibilité de faire tshuva. Maintenant, la Anaga à Nisteret, la conduite d'Hachem qui est cachée, c'est quoi? C'est que moi, regardez bien, à partir du moment où j'ai produit quelque chose, vous savez, je vous ai expliqué plusieurs fois, sur la partie psychologique du cours, que le but de la vie, c'est d'exister. Maintenant, moi, j'ai un potentiel en moi, je veux le réaliser. Alors ça, c'est la partie psychologique. Mais si je regarde l'antécédent spirituel à la psychologie, et la finalité spirituelle à la psychologie, c'est quoi? C'est que ma neshama, elle est là. Elle a besoin de se réaliser. Pour se réaliser, elle passe par mon moi. Quand elle passe par mon moi, elle va être le véhicule de l'existence de mon moi. C'est-à-dire que quand je vais faire sortir un morceau de ma neshama, en même temps, mon moi va sortir. Donc moi, je vais me réaliser grâce à l'existence de ma neshama. Alors que je le veuille ou non, j'ai un projet personnel que j'ai amené à bout, parce que j'ai dit, eh ben tu vois, j'ai fait ce que j'avais envie. Donc mon jeu, il s'est réalisé, hazak, psychologiquement, c'est bien. Mais à part ça, spirituellement, j'ai ma neshama qui est rentrée dans la réalité du monde. Or, quand ce morceau de neshama rentre dans la réalité du monde, oui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai existé. Or, ouvrez bien vos oreilles, toute la réalisation du projet humain n'est pas l'œuvre de l'homme. La seule chose qu'on demande à l'homme, c'est d'avoir un projet et une expression. Dès que l'homme va exprimer son projet, ou son souhait, ou sa volonté, or sa volonté, on a dit, c'est l'énergie qui sort de l'Eshama, Akadosh Baruch Hu la réalise, c'est-à-dire, qu'est-ce qui organise les molécules, qui organise le décor, qui organise l'événement, qui organise les rencontres, qui organise l'argent, qui organise la banque, qui organise les clients, pour que ton projet se réalise? Hachem. Toi, c'est l'esbéton. Comment on appelle ça? Ishtadlout. La ishtadlout, c'est quoi? J'ai un effort à fournir. Alors moi, je fais un effort. Qu'est-ce que je fais, par exemple? Je mets un magasin. Maintenant, les imbéciles, ils croient, parce qu'ils ont fait un magasin avec leurs mains. Ils ont fait les clients, ils ont fait leur argent. Ils croient qu'ils ont fait quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Hachem leur dit, t'as tout fait toi-même. Alors on va voir quand je vais t'enlever, combien de temps ça va durer. Une table au deuxième étage au sentier. 64 millions de francs au poker. Il dit, mais alors, j'ai rien. C'est ce que tu as toujours eu, mon frère. Mais avant, tu croyais que tu avais quelque chose. Maintenant, je t'ai prouvé que c'est rien. C'est la suite. Oui. C'est comme ça, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un doit arriver à comprendre que, de toute façon, dans la vie, on ne fait rien d'autre que d'exprimer un désir, d'exprimer une volonté. C'est ça, exister. Si je veux aller encore plus loin avec vous, je vais vous dire qu'au moment où vous parlez, vous savez, quand vous parlez, vous mettez la main devant la bouche, vous sentez le souffle. On appelle ça Evelpi. C'est le souffle de la bouche. C'est quoi le souffle de la bouche? Parce que la Neshima, la respiration, et la Neshama, c'est les mêmes lettres. Or, la Neshama, c'est l'élément divin que je contiens. Cet élément divin, il est constitué de la même énergie que l'énergie qui crée le monde. Donc quand mon morceau de Neshama sort de moi, il crée l'événement que j'ai exprimé en véhiculant une respiration qui est représentative de l'énergie divine que je contiens. Normalement, si vous avez écouté le cours sur le prix du temps, vous devriez être tranquille. Levez la main ceux qui ont écouté le cours du prix du temps. Alors écoutez, maintenant on va arrêter les cours de Torah, on va faire de l'art dramatique. Ça s'appelle l'archuma. D'accord? Alors? C'est honteux. Ouais, je suis pour le clown ici ou quoi? Ouais. J'essaie de vous enseigner des choses qu'il faut faire 20 ans d'yeshiva pour les connaître. Donc mettez-vous dans la tête que ça vaut le coup de réfléchir et de réécouter, de retravailler si vous voulez devenir des bons sales juifs. Ouais? Et pas des sales bons juifs. Ça veut dire des gens qui ne font pas la religion. D'accord? Si vous comprenez ça, moi je vais vous le répéter gentiment parce que on est un peu en famille. Regardez. Moi je suis comme ça. Mon être intérieur il est comme ça. J'ai une neshama. La neshama, c'est l'énergie divine. Maintenant, ce qui constitue la matière, donc le décor, donc l'événement, c'est l'énergie divine. Maintenant, quand la neshama, elle sort à l'extérieur, ce qu'on appelle les nitsutsot, les étincelles, c'est un morceau de Dieu qui sort à l'extérieur. La révélation du morceau de Neshama à l'extérieur, ça crée le temps, puisque le rythme de sortie des Nitzotzot, c'est le temps, c'est le Harizal, vous reverrez le cours, et ça crée la matière, puisque cette énergie-là, oui, c'est la même nature de l'énergie que la matière. Or Dieu, pour créer le monde, il met sa volonté à l'intérieur de la molécule, et l'énergie qui donne la structure de la matière, c'est la même énergie que celle qui est contenue dans ma Neshama. Donc quand il y a un bout de ma Neshama qui sort dehors, elle crée une structure énergétique, donc une structure de matière, donc un décor, donc un événement. On appelle ça exister. C'est pour ça que la vie, elle dépend de la volonté, puisque la volonté, elle est véhiculée par la Neshama. Et quand j'émets un souhait, et que ce souhait, il est véhiculé par ma volonté qui vient de la Neshama, je crée l'événement. Donc rien ne peut aller contre la volonté, puisque c'est moi qui crée l'événement. Donc si je suis mesquine, je crée une petite vie. Si je suis grand, je crée une grande vie. Ça va dépendre si je vais avoir un tuyau large qui va faire sortir ma Neshama, ou si je vais avoir un tuyau très restreint, ouais, qui va pas faire sortir l'énergie de la Neshama. On appelle ça, en psycho, on appelle ça exister. D'accord? Mais c'est même pas 0,2% de l'existence. Nous, dans la Torah, on appelle ça la tzed milakoach la poal, passer du potentiel au réel, c'est un échama qui se réalise dans le monde. Maintenant, essaye de comprendre. Toi, on te demande rien. On te demande rien, parce que toi, tu fabriques rien. Parce que toi, tu dis, j'ai faim à un magasin. Attends, qui c'est qui t'a donné l'idée? Comment elle t'a germé? Qui c'est qui t'a trouvé le beau-frère qui t'a envoyé les 60 000 francs? Ta femme? Qui c'est qui t'a envoyé ta femme? Qui c'est qui t'a envoyé un coup de folie, un stock là-bas, des chemises à 10 francs la tonne? Qui c'est qui t'a envoyé le premier client? Qui c'est qui t'a envoyé l'associé qui t'a conseillé? Qui c'est qui t'a envoyé le comptable qui t'a sauvé ta société? Qui c'est qui a fait tout ça? Alors, t'arrêtes de te prendre pour le bon Dieu, s'il te plaît. Tu te calmes. Pourquoi? Juste toi, t'as aimé. Toi, tu as dit, tu sais, moi, depuis Tunis, je voyais la rue Beauregard, je voyais un long truc comme ça de 30 mètres de long avec des fluos, et je voyais chiche, porc, quiche, en trois mots. Alors il avait ça dans la tête depuis qu'il avait 13 ans. Ça veut dire que sa Neshama, il a mis un diapo dedans. Ce diapo, il le projette avec sa volonté. Il a fabriqué son magasin avec sa tête. Il a fait. C'est pour ça qu'on dit que les gens qui savent ce qu'ils veulent, ils trouvent les moyens pour l'atteindre, puisque c'est eux qui fabriquent les moyens. Les gens disaient, vraiment la volonté, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Ils ont rien pigé. La volonté, c'est l'énergie qui crée la matière, qui crée l'événement, qui crée le temps, qui crée la circonstance, qui crée la personne, qui crée le milieu, qui crée tout. Donc quand tu existes, rien ne peut t'empêcher d'exister, puisque le décor de l'existence, tu le fabriques. Est-ce que vous comprenez ce qu'on raconte? Les gens disent, oh mais j'ai pas eu de chance dans ma vie, les circonstances ne m'ont pas aidé, la conjoncture est difficile, mais c'est toi la conjoncture. En les jonctures, tu vas comprendre. C'est pareil. Si on comprend ça. Non mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment dans la Kabbalah, ça s'exprime de manière claire. Les gens, ils croient qu'avec HEC, ils ont tout compris. Ouais, le marché, le... Dans Nasdaq, il y a Nas. Vous comprenez? Mais DAC, fais attention. Ouais. C'est comme ça. Laissez-moi, s'il vous plaît, finir mon cours, parce que je vois pas comment je vais arriver à la fin. Alors, si c'est comme ça, hein, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis à l'intérieur. Mon but, c'est d'exister. D'accord? Quand je vais exister, je vais juste exprimer. C'est ce qui est marqué, « Ahaim ve'amavet biyad alashon ». La vie et la mort, ça dépend de la bouche. Quand moi, j'ai exprimé ma volonté, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va organiser la molécule pour faire exister mon projet. Maintenant, attention. Moi, ce que je produis, c'est ce qu'on appelle un acte. Maintenant, moi, quand je produis cet acte, il peut être bien ou il peut être mal, puisque j'ai libre arbitre. Ça va? Maintenant, au fond, un homme, il ne contrôle pas la finalité de son acte, puisque déjà, il ne contrôle pas le début de la réalisation de son acte. Je sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'est plus ton problème. Toi, tu as exprimé, c'est plus ton problème. Après, qu'est-ce qu'on va faire avec un acte? Du bien ou du mal? C'est ça que je vous propose qu'il fait. Ça va? Alors maintenant, la part de la punition et de la récompense qui me concerne à moi, où est-ce qu'elle est orientée? Ici. Là. C'est là que ça me concerne. Après, ça ne me concerne plus. Est-ce que vous me suivez? Par exemple, quand je prends un caillou, je vois un type qui passe. Je dis, je vais lui arracher la tête. Et je lui jette le caillou. D'accord? Mais l'autre, à ce moment-là, il voit un billet de 100 francs par terre. Il baisse. Le caillou, il arrive dans une vitrine. Il détruit un tableau à 800 milliards. Alors toi, tu dis, mais attendez les gars, là. Alors les flics, ils arrivent. Bah, 2000 ans de prison. D'accord? Je dis, mais attendez, mais c'est quoi, là? Qu'est-ce qui m'arrive? La Torah, elle te reproche une chose, le geste. Parce que le geste, il t'appartient. Mais la conséquence du geste, elle ne t'appartient pas. Parce qu'Hachem, il fait ce qu'il veut avec la conséquence. Il y a des gens, ils ont un accident de la route, ils ont une égratignure. D'accord? La voiture, elle est explosée. Il y en a, ils glissent, une marche d'un escalier, ils sont fracassés, le crâne en deux. Je dis, quand même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas les circonstances qui font l'événement. C'est pas les circonstances. C'est comme les gens qui disent, vous savez, je sais pas, ils te disent, vous savez, il faut faire attention quand vous conduisez parce que la voiture c'est quand même dangereux. C'est vrai. Mais il y a quand même 10 000 personnes qui meurent en France tous les ans parce qu'ils ont attrapé une maladie dans un hôpital. C'est-à-dire d'être malade, c'est deux fois dangereux. D'abord parce que tu es malade, deuxièmement parce qu'il faut soigner. Et là où tu vas te soigner, tu trouves une maladie plus grave que la tienne. Tu comprends, non? C'est que le malade, il va dire au docteur, bon, faites-le hospitaliser. Le malade dit, excusez-moi, je voudrais savoir de quoi je vais mourir. Si ça vous dérange. Si ça vous dérange pas, je préfère choisir. C'est pareil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas une logique. C'est avec les gens qui disent, oh ben, vous savez, il est mort jeune, il est mort vieux, il a une mort troublante, il a une mort difficile, il a une maladie grave. Au fond, ça ne te concerne pas. Toi, qu'est-ce que tu fais? Encore une fois, toi, tu fais ton travail à toi. Tu produis, tu existes. Tu produis du bien, tu produis du mal. Maintenant, par rapport à ça, tu vas avoir une punition et une récompense. Mais la punition, elle n'est pas liée à la conséquence. La punition, elle est liée à l'acte. Donc toi, ce qu'on va te reprocher, c'est d'avoir fait le geste de jeter la pierre. Ce geste-là, il est répréhensible. Mais la conséquence et la finalité, au fond, t'es pas lié à ça. Vous voulez une preuve? Une preuve extraordinaire. La Gemara, elle dit, comment un homme il peut faire teshuva? Comment un homme peut faire teshuva? Quelqu'un qui a tué, il a tué. Il a pris un pistolet, il a tiré une balle, il a tué. Maintenant, le mort, il est par terre. Ouais. Lui, il dit, oh, hatati, hatati, je regrette que Dieu me pardonne. Alors un jour, il dit, viens mon fils, reviens vers moi. D'accord? Alors le mort, il dit, bon, et moi, qu'est-ce que je fais là? Je compte pourquoi, moi? Je suis mort, je suis vivant, je suis quoi? Ouais. Alors tu dis, attends, excuse-moi. Alors Agmar, elle dit, ah, mais pourquoi, comment ça se passe que le Baal Teshuva, il ne meurt pas, il doit mourir puisqu'il a fauté. Il dit, mais il fait Teshuva, il ne meurt pas. Alors l'Agmara, elle dit, l'ange de la mort, quand il vient pour tuer le tueur, il n'y a plus de tueur. Où il est le tueur, il n'y a pas. Vous comprenez, non? Il a disparu, le tueur. Parce que le tueur, c'est quelqu'un qui a tué. Tu dis, mais comment il peut y avoir un mort s'il n'y a pas de tueur? J'ai un cadavre, j'ai une arme, j'ai un mobile, j'ai pas de meurtrier. Pourquoi? Volatiliser. Alors nous on dit, mais je m'excuse, monsieur, je m'excuse, mais vous savez, dans la vie, il y a des causes, il y a des conséquences. Il y a des conséquences auxquelles on ne peut pas échapper. C'est vous qui aviez le pistolet. Vous aviez une circonstance à ce moment, vous avez pris le pistolet, vous avez appuyé sur la détente, la balle a transpercé le cœur. Le cœur, il ne supporte pas les balles. Vous savez pas que le cœur, il ne supporte pas les balles? Je me dis, moi, je n'ai pas compris, moi, le médecin, il me donnait du fer. Ah ben, moi, je lui ai donné du plomb. Ah, ben, c'est peut-être la dose, c'est trop concentré à un endroit précis. D'accord? Alors je vais lui envoyer un milliard de petites balles comme ça, microscopiques. Il va quand même mourir. Alors t'es condamné. La Torah a dit, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Oh là là, attends, je vais t'expliquer la vie, assieds-toi. Il y a un type là, il a envie de tuer. Il a les nerfs comme ça, il a un pistolet, il dit, à quoi ça sert? Il a essayé de faire de la mayonnaise avec, il n'arrive pas. Il a essayé de manger avec, il n'arrive pas. Il dit, peut-être ça sert à tuer. Il a envie de tuer. En plus, il a un voisin qui a la tête de la victime. Mais vraiment. Le genre de tronche que vous voyez le dimanche matin dans François. Ah, vraiment. la tronche du mec, le pauvre, il est mort. Le pauvre, il est mort. Il y a des gens comme ça. Tu les vois, tu dis, celui-là, il devrait être mort. Dommage. Ouais. Et lui, il a un magnum. Ouah, un magnum, comme ça. Hein. Alors il dit, mais, on va faire un chidour. Donc lui, il a envie de tuer, et l'autre, il a une tête de victime. Mais non, c'est une blague. L'autre, il a une tête de victime. En plus de ça, c'est un bon rachat. On va dire un bon rachat, il a fait une belle avéra, il mérite. Ouais. Il a déchiré le cœur de son cousin. Parce qu'il a fait adultère. Il a fait adultère, il a pris la femme de son cousin, il a fauté avec elle. Maintenant, son cousin, il a le cœur déchiré. Mida keneged mida, on va lui déchirer le cœur. Donc celui-là, il mérite d'avoir le cœur déchiré. Celui-là, il a un magnum, il a envie de tuer. Ajboukou, il a dit, bah tiens, je vais les installer l'un en face de l'autre, sur le même palier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un dimanche matin, un samedi soir, justement avant l'édition de François, ouais. Il y a l'autre, il a le magnum qui lui pèse. Il dit, si j'enlevais une balle, ça pèserait moins lourd. Qui c'est qui sort de la maison dimanche matin comme un pas? Le mort. Il prend le pistolet, je vous réitère pas la bracha de chez Akol, ouais. Il lui tire dans le cœur. Qu'est-ce qu'ils disent les juges? Homicide. Homicide. C'est vrai ou non? J'ai dit, vous reconnaissez avoir tiré? Oui. Vous reconnaissez être mort? D'accord. Donc, il y a eu meurtre. Comme ça, ils disent les goïms. Non, on dit pas ça du tout, mais ça n'a aucun rapport. On dit, regarde. Lui, il devait mourir. C'était sa date. Monsieur, l'adultérin, là, il devait mourir. Il avait un terrain d'adulte. D'accord? Donc, il devait mourir vite. On lui a choisi sa date, calcul, il doit mourir à telle date. Maintenant, lui, il a envie de tuer. Et lui, il a un libre arbitre. Ou il tue ou il tue pas. Maintenant, quand lui, il prend le pistolet et il tire dans le cœur, qu'est-ce qu'il a fait à Kadjouarou? Il a fait ce qu'on appelle une illusion d'optique. Que la personne, on lui a enlevé sa neshama au moment où la balle est rentrée dans le cœur. Mais il n'est pas mort à cause de la balle. La Gemara elle dit, En anachash memit et la achet memit. C'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. Donc lui, il était virtuellement mort. Il lui manquait juste d'arriver au bon moment. Quand le temps est arrivé, c'était l'heure où la balle a transpercé le cœur. Maintenant tu dis, mais si la balle a transpercé le cœur, excuse-moi! Comme ça, ils disent des penseurs tunisiens. Ouais. C'est pas péjoratif, parce que j'ai dit penseur. Bon, alors, excuse-moi, mais il lui a transpercé le cœur, donc il serait mort de toute façon. Tous les jours, si tu, à part les faits d'hiver, tu lis les faits d'été, tu verras que tous les jours, il y a des gens qui ont les poumons transpercés, celui-là, il a une balle qui est rentrée dans le crâne, elle est ressortie de l'autre côté, et il reste vivant. Ça veut dire quoi? Je suis pas en train de vous convaincre de quelque chose de débile, je suis en train de vous dire une chose. Akadosh Baruch Hu, pour ton libre arbitre à toi, et aussi pour que Goïm il dorme la nuit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la mécanique naturelle de dire qu'un cœur transpercé perd la vie. Mais nous, on sait très bien qu'il n'y a pas de hasard. Que si là, il avait envie de tuer, et pour l'envie de tuer, il va être puni, et si là, il devait mourir, et il est mort d'une balle comme ça. Maintenant, le fait qu'il est mort dans les circonstances comme ça, je vous ai déjà expliqué, il y a deux cours, que les circonstances, elles démontrent dans quelle faute il mérite la circonstance de sa mort ou de sa punition. Donc, lui, il est mort d'une balle parce qu'il a fait déchirer le cœur de quelqu'un. Maintenant, il est mort à ce moment-là parce que c'était son heure de mourir. S'il n'était pas mort comme ça, il aurait pu être transpercé par un rail de train ou parce qu'il aurait pu avaler une fourchette, n'importe quoi. Mais c'était son heure. D'accord? Qui c'est qui a oublié la fourchette dans le sandwich? Oui, il est mort. Donc maintenant, cette rencontre entre quelqu'un qui a envie de mourir et quelqu'un qui doit mourir, cette rencontre, elle provoque un mort. Maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Celui qui a tué, on ne peut pas lui reprocher le meurtre. On peut lui reprocher le geste d'avoir tiré la balle de pistolet. Mais on sait que dans les mêmes circonstances, une autre personne aurait pu survivre. Donc la conséquence de la mort appartient à Dieu. Maintenant, pour mesurer la taille de... Donc ce qu'on te reproche, c'est le geste, l'acte. Maintenant, pour mesurer la taille de l'acte, la Torah, elle a dit, on regarde la conséquence de l'acte. Mais en vérité, ce qu'on te reproche, c'est le geste, l'acte, et non pas la conséquence. Vous comprenez ou non? Oui ou non? Donc maintenant, regardez bien, ouvrez bien vos oreilles. Mais lui, il devait mourir. Mais toi, t'as pas une mise-bas de tuer. Maintenant, quand tu l'as tué, Je t'interdis de tirer des balles de pistolet sur tes copains. C'est dans la Torah. Donc quand toi t'as tiré, t'as transgressé un interdit de tirer une balle. Mais, et lui il en est mort, parce que lui il devait mourir, il n'y a pas de hasard, parce que toi tu crois que parce que t'as envie de tuer, tu tues qui tu veux. Toi tu tues quelqu'un qui doit mourir. Maintenant t'avais le libre arbitre, ou tu le faisais ou tu le faisais pas. Regardez bien. Si vous allez me dire, mais si j'avais pas tiré, il serait mort quand même. Ça c'est la Emouna, il serait mort quand même. Il serait pas mort ici, il serait mort dans un accident, il aurait glissé, je te dis, il aurait avalé une fourchette, il serait mort, c'était son heure. Alors tu dis, mais si il serait mort de toute façon, pourquoi moi je suis puni pour l'avoir tué, puisque je ne l'ai pas tué, puisqu'il devait mourir? Parce que tu étais sur la photo. Ça veut dire quoi? À Kadosh Baruch Hu, il a dit, voilà, il me faut un tueur. Il fait un appel d'offres. Et il lève la main, il dit, moi, je vous dis, attention. T'as le droit d'être tueur parce que t'as des pulsions, t'as envie d'être tueur, mais sache qu'il y a des conséquences. On va te refaire une santé. D'accord? C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, j'ai libre arbitre de faire le mal ou le bien. Lui, il doit mourir parce qu'il a fauté. Maintenant, de la même manière que lui, il a libre arbitre de faire teshuva, moi aussi, j'ai libre arbitre de ne pas fauter. Maintenant, si je faute et que lui meurt, lui, il devait mourir parce qu'il n'a pas fait teshuva entre temps. S'il avait fait teshuva, d'accord, donc un jour, il m'aurait sauvegardé de ce type-là, et lui, il aurait tué quelqu'un, il l'aurait pas tué. Ou lui, il l'a tué, et il l'a fait, ou il ne tue pas, il fait tshuva, et moi, je mourrais d'une autre manière. Maintenant, la rencontre entre son geste et ma mort, c'est organisé par un Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi? Moi, je crée un acte. Maintenant, le résultat de l'acte, Kadosh Baruch Hu le gère. Comme j'existe, Kadosh Baruch Hu, il gère mon désir d'existence. Donc, la réalisation physique de mon désir d'exister, c'est Dieu qui le réalise. La rencontre entre les dieux, c'est Dieu qui l'organise. Maintenant, si je fais teshuva à moi, regardez bien, il y a un mort. Il y a un mort qui devait mourir. Moi, ce qu'on me reprochait, c'est mon geste. Mon geste, il venait de ma nature. Ma nature a changé, parce que j'ai fait teshuva. Donc, il n'y a plus de meurtrier. Si j'étais lié à la conséquence, et c'est ça la question de l'Agmara, mais le mort, il est mort. Et la réponse, elle est, c'est vrai que le mort, il est mort. Mais le mort, il n'est pas mort par lui. Le mort, il est mort parce qu'il devait mourir. Maintenant, moi, je te reproche d'avoir participé à sa mort. Mais si ce qui t'avait amené à ce meurtre, c'était d'être un rachat, et que maintenant que tu as fait teshuva, on te reconnaît plus, ça veut dire que quand on vient sur le lieu du crime, on ne trouve pas le tueur, puisque le tueur, c'est une autre personne maintenant. Donc, il n'y a plus de tueur, donc il y a un mort sans. Donc, lui, c'est comme s'il était mort dans son lit, et lui, c'est comme s'il avait tué personne. Mais ça, c'est seulement parce qu'on arrive à séparer l'acte et la conséquence. Mais si on dit, comme dans la logique profane, que l'acte et la conséquence sont liés, donc on ne peut pas se séparer. Donc même si je veux te pardonner, mais je ne peux pas t'enlever la conséquence. Donc il faudra que tu payes sur la conséquence, même si tu ne payes pas sur l'acte. Vous avez compris la différence entre la justice divine et la justice humaine. Ça va? Mais qu'est-ce que c'est là? C'est la superposition entre le projet humain et le projet divin. Le projet humain, c'est que moi j'ai envie de faire du mal ou pas faire du mal. D'accord? Le projet divin, c'est que lui, il doit mourir, et que lui, il faut qu'il ait la possibilité physique d'assumer son libre arbitre. Ça, c'est le projet divin. Ça, c'est Anaga Anisteret, c'est la conduite de Dieu qui est cachée, et ça, c'est la conduite de Dieu qui est voyante. Donc la punition et la récompense, c'est la partie voyante de la réalité. Par contre, l'intervention de Dieu pour amener à la finalité de ton acte et la finalité du Mashiach, ça, c'est quelque chose qui se voit pas. Mais les deux, ils se superposent, vous avez compris? Parce que moi, j'existe, Kadosh Baruch Hu, il récupère mon acte. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? C'est simple. Chacun, il est dans son tuyau. Dans son tuyau, il a le libre arbitre de faire le bien ou de faire le mal. À chaque fois que moi, je vais exister, je vais produire quelque chose. Cette production, elle va participer à une réalité de la tienne ou de la mienne. Oui? Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il tresse les réalités de chacun, oui, les destinées de chacun, que chacun a produit au travers de son tuyau personnel. Et qu'est-ce que ça donne? La réalité du monde. Vous voyez ça ou non? C'est-à-dire que moi, j'ai un problème personnel ou j'ai une solution personnelle. Je fais du bien ou je fais du mal. C'est, on va dire, au premier degré, ce qui sort de moi. Mais ça profite à qui? Ça va où? Ça développe quoi? Ça va dans quel sens? Moi, j'ai fait une boutique. Mais ça a amené tel type de clients. Ça a développé telle partie de la société. Ça a fait que j'ai rencontré tel voisinage. Ça a fait que j'ai pu apporter et rendre service à tel voisin. Ça a fait que j'ai pu faire travailler tel employé. Toutes les retombées de ma volonté d'existence, qui c'est qui les gère? C'est Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il a fait, il a créé ce qu'on appelle des zivugim, il a créé des couples pour mettre en contact des gens. Si c'est pas par hasard si t'as tel parent, si t'as tels enfants, si t'as tel patron, si t'as tel voisin, si t'as tel frère. Qui c'est qui fait rencontrer les êtres à jour? Alors, de la même manière que les êtres se rencontrent, les circonstances se rencontrent, par exemple. Parce que si on revient au niveau de la Neshama, ça devient très compliqué. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de faire, par exemple, de la téléphonie. En tant que patron. Et toi, donc moi, je fabrique, comme on a dit tout à l'heure, je fabrique mon magasin de téléphone. Je le fabrique avec ma Neshama, d'accord? Et toi, t'as envie d'être vendeur en téléphonie. Donc, à ce moment-là, il va faire rencontrer un type qui a envie d'être patron en téléphonie avec quelqu'un qui a envie d'être vendeur en téléphonie. Les deux, ils vont avoir un décor commun qui va être un magasin de téléphonie. Un avec un projet personnel qui s'appelle 4 millions de francs et un avec 6 000 francs. C'est normal. Ambition petite. Grande ambition. Vous comprenez ça ou non? Ah, tu dis, mais comment c'est possible que nos deux déchamottes, elles ont fabriqué une réalité commune puisque ma neshama elle est personnelle, la tienne est personnelle. Donc comment c'est possible qu'on a réalité, on a réalisé quelque chose de commun? C'est pas possible. Je vous ai expliqué déjà ça, Rabotai. Moi j'existe. Toi tu existes. Comment on appelle le lien entre les deux? La coexistence. La coexistence, c'est les atomes crochus qui vont se créer entre ton énergie et la mienne. C'est pour ça que c'est important, par exemple, dans une entreprise, qu'il y ait une bonne symbiose au niveau du climat, au niveau des perceptions de l'autre, au niveau de la communication, au niveau du désir de volonté, au niveau de développer le... Parce que ça s'appelle les atomes crochus qui font passer les énergies. Mais s'il n'y a pas d'atomes crochus, projet personnel, si on cumule des projets personnels, on tue la société. Si on crée un projet commun, on développe la société. C'est la force de vente, la perception, la stratégie, tout ça, c'est la même chose. Ça s'appelle, encore une fois, la gestion du droit d'existence. Alors quand je le regarde à mon petit niveau, moi, je suis le petit bon Dieu de mon entreprise. Majbourou, c'est le grand patron de tout le monde. Lui, il gère les interactions qui peuvent exister entre les réalisations de chacun, et c'est ça son travail, ouais. Et la réalité du monde, c'est la jonction de tous ces liens. Maintenant, il va avoir un lien qui est complètement incroyable, puis bah, je sais pas, j'ai pris l'avion pour aller en Israël, il a été détourné sur Budapest, à Budapest, ils ont déposé les otages, ils ont fait rentrer des gens de la police, parmi eux, il y avait une stagiaire qui s'appelait Myriam Volkanski, et puis elle est rentrée dans l'avion, et puis on s'est mariés. Tu dis, jamais j'aurais pu organiser une prise d'otage, pourtant je suis un type quand même qui est assez dynamique, pour me marier. Maintenant, je ne vais pas vous souhaiter à tous une prise d'otage. On va faire ça de manière un peu plus classique, vous comprenez? Ouais. Mais c'est pareil, d'arriver à comprendre que les circonstances, quel que soit leur côté extraordinaire, ça reste le fait qu'elles vont créer des liens entre les éléments. Alors, si c'est comme ça, hein. Voilà, je suis content. J'ai marqué dev, je l'ai fait, j'ai développé. Si c'est comme ça, hein. On a bien avancé. Voilà. Si c'est comme ça, alors regardez bien maintenant. Vous allez me dire, oui, mais ça c'est bien pour le bien, mais pour le mal, il n'y a pas de différence. Moi je produis du bien ou moi je produis du mal. Moi je voulais produire du bien ou moi je voulais produire du mal. Le bien, il va être utilisé par Hachem et le mal va être utilisé par Hachem. Parce que Hachem, il a créé le monde à partir du bête. Le bête, Bereshit, c'est deux. Deux, c'est quoi? C'est la dualité. Ce monde, il fonctionne par le biais de la contradiction du bien et du mal. Du chaud et du froid, du haut et du bas, de l'homme et de la femme. La complémentarité dans la contradiction. Donc à ce moment-là, il a besoin du bien et il a besoin du mal. Comme vous, pour évoluer, vous avez besoin du bien pour vous construire et vous avez besoin du mal pour vous en préserver. Maintenant, quand vous vous préservez du mal, vous construisez vos défenses et quand vous apprenez le bien, vous construisez votre intériorité. Donc vous avez besoin du bien et du mal. Si on enlève le mal à quelqu'un, il se fragilise. Si on enlève le bien à quelqu'un, il ne se construit pas. Donc vous avez besoin du bien et du mal. Donc de la même manière, Dieu, dans la création du monde, il a besoin du bien et du mal. Le bien est nécessaire, le mal est nécessaire. Maintenant, à notre niveau, le mal est mal. Mais le bien est bien. Mais dès que tu sautes un niveau, le mal peut être bien, le bien peut être mal. Par exemple, le médecin, regardez le schéma, le papa, l'enfant, le médecin. Donc le papa emmène son fils pour faire le vaccin pour la polio. Donc le papa et le médecin pense, on lui enlève la polio. L'enfant, il pense quoi? On me fait une piqûre. Maintenant, la conscience des parents lui disent, mais tu sais, mon fils, c'est bien de ne pas avoir la polio. Il dit, oui, le fils, mais je ne voudrais pas avoir la piqûre. Ça s'appelle une négociation. Maintenant, dans la vie, il y a des gens, toute leur vie, ils espèrent qu'ils n'auront pas la piqûre. Et ils cherchent des compromis. En deux mots. D'accord? Il y a des gens qui ont compris qu'à chaque fois qu'il y a un bien, il y a une piqûre. C'est-à-dire quoi? À chaque fois que tu veux obtenir quelque chose, tu es obligé de faire un sacrifice. Par exemple, tu veux le shalom bayit, il faut faire des efforts. Tu veux du fric, il faut travailler. Tu veux un relationnel avec les autres, ouais, il faut faire des remises en cause. Tu veux un lien avec Hachem, il faut suer sur l'étude de la Torah et des mitzvot. À chaque fois que tu veux te rapprocher de quelque chose, tu es obligé de sacrifier ce qui t'en sépare. Ça va? Donc il n'existe pas un bien sans la piqûre. Maintenant, il y a des imbéciles, ils espèrent toujours. Et pourquoi pas? Ouais, est-ce qu'on ne pourrait pas lier l'utile à l'agréable? Ça veut dire quoi l'utile? À l'agréable? Ça veut dire que l'utile devient agréable. Mais il faut que l'utile soit désagréable. C'est pourquoi? Parce que quand l'utile devient agréable, c'est toi qui deviens inutile. Toi, tu es un Ben Israël, tu es un prêtre. À jour où il t'a créé pour produire, oui, du spirituel dans le monde. Maintenant, toi, tu dis, oui, mais moi, je voudrais bien avoir un boulot intéressant. Mais le boulot, c'est une fonction pour bouffer. Comme les intestins, c'est pour digérer, le boulot, c'est pour bouffer. C'est une fonction. L'autre, il dit, mais moi, j'ai un boulot tellement intéressant, j'étais tellement pris durant toute ma carrière, entre 18 ans, où j'ai fini l'école d'ingénieur, et mes 74 ans, où j'ai terminé mon dernier projet architectural, que j'ai oublié ma neshama. Donc quand tu t'es préoccupé de rendre l'utile agréable, c'est vrai que tu as eu un métier intéressant. Au niveau de ta neshama, tu as souffert d'une anorexie chronique. Pathos. Mais presque. D'accord? Il y a 78 ans, tu te dis, ça c'est une kippa. Et Wamji, hein? D'accord, c'est pareil. Il dit non. Un juif, c'est quelqu'un qui comprend qu'il y a des fonctions obligatoires. C'est vrai qu'il faut manger. C'est vrai qu'il faut dormir. C'est vrai qu'il faut travailler. Eh ben oui, puisque t'as pas de bitachon. Donc il faut travailler, sinon tu vas crever. Oui. Donc, mais ça s'appelle de l'utile. Il ne faut pas rendre l'utile agréable. Ce qui doit être agréable, c'est le fondamental. C'est ta Torah. L'utile, ça doit rester utile. Tu vois, un mec, il va kiffer sa clé à molette, il va dire, j'ai une clé à molette. C'est une clé à molette! C'est une clé à molette! Oui, mais c'est une clé à molette! C'est une clé à molette! Ça doit rester utile, pas plus! Le métier, c'est une clé à molette, c'est pour décoincer la banque. C'est ça, le métier, c'est une clé à molette. Mais si tu kiffes ta clé à molette, à la fin, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens un collectionneur de clé à molette. Vous savez, les gens qui passent 3 jours par semaine chez Bricorama, ils comparent les nouveautés, ils voient les tests sur la Facom numéro 194, et j'ai fait la clé 18, je l'ai évalué, j'ai vu que... Tu dis, mais t'es malade. Mais t'es devenu un malade. Il dit, j'ai constitué, durant une grande partie de ma vie, une caisse à outils. Ouais, on va t'enterrer avec. Des fois que t'as quelque chose à réparer dans l'autre monde. C'est pas possible. Donc pour nous, l'utile ne doit pas être agréable. C'est pourquoi? Parce que chez qui, regardez, les gens chez qui l'utile est agréable, c'est des gens inutiles. Parce que l'autre il le fait très bien, mais laisse-le faire l'autre mécanicien, laisse-le faire. Vas-y, laisse-le les mains dans le cambouis, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, là-dedans? Tu n'as rien à voir, toi, là. Toi, t'as la Guémara, t'as les misotes, t'as les tifinis. Tu dis, ah, je peux pas mettre les tifinis, non, là, j'ai les mains pleines de cambouis. Mais t'es pas obligé, c'est pas une mitzvah, le cambouis. Toi, t'as autre chose à faire. Toi, t'es un prêtre. Du clan Israël, il a donné un peuple. Même le gars, il te dit, vous êtes le peuple élu. Alors, il faudrait commencer à le comprendre depuis qu'il te le dit, non? T'as pas compris encore? T'as tout fait pour t'intégrer à la société maghrébine de France. Et il t'arrive pas! T'as pas compris encore? C'est-à-dire que Jouhou, il te dit, rappelle-toi que tu es un sale juif. Si tu l'oublies, l'autre, il s'en rappelle. Toi, tu essaies de t'intégrer, tu manges du porc, tu t'es fait appeler Christian, Benaroc, mais Dieu, il se trompe pas. Le gars, il se trompe pas. Il dit, mais bon, dis-toi, là, vous n'êtes pas d'ici. Il dit, mais enfin, je suis en Avignon depuis 1200 ans, mes parents natifs de vignoble de Babaouer. T'es un gerbien, toi. Tellement sans joie. Il faut pas nier son identité. Je vous ai déjà expliqué la semaine dernière que le travail d'Amalek, c'est de te mettre une étiquette quand tu fuis la tienne. Amalek, c'est le grand spécialiste des étiquettes. Il colle des étiquettes. Toi, tu dis, elle colle pas, elle colle très bien. Mais je l'ai dilué dans 4 goyotes, dans 5 générations, elle colle très bien l'étiquette, regarde. Regarde comme elle colle bien, regarde. C'est pareil. Mais si quelqu'un comprend ça, il comprend que Akadosh Baruch Hu, il attend quelque chose de nous. Donc moi, je dois faire ce que j'ai à faire. Je dois exister en tant qu'homme et en tant que juif. Maintenant, je vous dis tout de suite, c'est plus difficile d'être un bon juif que d'être un bon homme. Les gens, ils croient, si déjà je suis bien un homme équilibré. Mais Rabotai, c'est normal d'être équilibré. Il ne faut pas s'époustoufler. Vous comprenez, les gens, ils voient des héros, ils disent, tu te rends compte, c'est qu'il ne se met pas en colère, il est gentil, il est doux, il est... C'est la moyenne des bœufs, c'est comme ça, hein, vous savez. C'est rare de trouver des taureaux qui sont coléreux. La preuve, on fait des corridas pour cela. Ouais. Mais si un homme comprend, il prend d'autres références. Il prend des références plus hautes, plus fortes. Il dit, tu vois, lui, c'est une référence. Lui, il est un homme bien, il a un juif bien. Lui, il est un homme bien, un juif bien. Chacun d'entre nous, avant de sortir du ventre de sa mère, il a juré à Hachem qu'il serait un tzadik. Vous vous rappelez pas? Alors vous avez dit, oh, j'ai dû dire blinéder. Il n'y a pas. Impossible. Et Lama, donc à Kadosh Baruch Hu, il a créé le bien, il a créé le mal. Et il a demandé, il a besoin du bien, il a besoin du mal. Il a besoin des acteurs du bien et des acteurs du mal. Comme je disais tout à l'heure, il fait un appel d'offres. Maintenant, chacun, il se lève la main. À Kadosh Baruch Hu, il dit, il me faut des Rechaim. Présent. Il me faut des Tzadikim. Présent. Chacun, il choisit son chemin. Maintenant, quand toi, tu vas produire du bien, à Kadosh Baruch Hu, il va utiliser ce bien. Pour du bien. Quand toi, tu vas produire du mal, à Kadosh Baruch Hu, il va utiliser ce mal pour du bien. Parce que le mal, c'est ce qui n'a pas de but. Maintenant, à Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait a un but. Maintenant, même si toi, tu fais quelque chose sans but, à Kadosh Baruch Hu, il peut utiliser cette existence sans but dans un but. Puisque lui, il la réorganise à l'intérieur d'un circuit qui produit un but. C'est ça le trait, la tresse qu'à Kadosh Baruch Hu, il fait. Est-ce que vous comprenez? Je vous reprends le schéma, c'est très important. Chacun d'entre nous, il est dans son tuyau. Et dans mon tuyau, je fais ou du bien ou du mal. Ou du bien ou du mal. Maintenant, pourquoi mon tuyau, il est collé avec le tuyau de mademoiselle? On se dit, bon, peut-être qu'on a quelque chose en commun. Vous ne voudriez pas qu'on fabrique des petits tuyaux communs? Faisons des tuyaux en commun. Ouais. Ça peut être une déclaration aussi. Ouais. Donc, et Kadosh Baruch Hu, il organise. Maintenant. Alors, ces tuyaux, ils sont l'un en face de l'autre. Maintenant, moi, je produis quelque chose. Ça va profiter à qui? Ça va développer quoi? Ça va aller dans le sens de quoi? Alors, Kadosh Baruch Hu, il récupère ça et hop, il optimise. Encore une fois, tu veux faire du mal? Hop, il y a quelqu'un qui a besoin de mal. On va donner. Tu veux faire du bien? Hop, il y a quelqu'un qui profite du bien. C'est de la même manière que toi. En Mezakin le Adam est là. Non. En Mezakin et l'Elizakai, c'est marqué. On ne donne du mérite que par des gens qui sont méritants. Et on ne fait du mal que par des gens qui font du mal. T'en fais pas que... Le type qui est pourri, il produit du pourri. C'est comme ça. N'est pas valeur. Mais le type qui est bien, il produit du bien. Maintenant, si un pourri, il veut produire du bien, il faut d'abord qu'il devienne bien. Tu dis, pourquoi pas? Et pourquoi oui? Pourquoi oui? Et tu peux prendre un petit atelier comme ça, de la rue des petites écuries, tu montes là-haut, tu leur dis, vous pourriez pas me faire une petite fusée spatiale? Entre deux petites coutures, là, entre deux costumes, là, vous ne pouvez pas monter au satellite. Alors, il dit, excusez-nous, on est des Coréens, nous, un costume, on fait un costume. On ne peut pas faire un satellite. T'as bien vu que tu ne t'adresses pas à la même personne. Hein. C'est pareil ici. Akjuhu, il utilise les uns, il utilise les autres, en fonction de l'endroit d'existence. Maintenant, toi, tu as libre arbitre dans ce que tu produis, mais après, dans la gestion de la finalité de ce que tu as produit, ça, tu n'es plus propriétaire. Kadosh Baruch Hu, il organise. Maintenant, si je dis que le bien comme le mal re-rentre à nouveau dans un circuit de bien pour produire du bien, comment ça s'appelle ça en hébreu? Kol de avad rachamana l'itava avid. Tout ce que Kadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien. Tout ce que Kadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien. Gamzu Letova. C'est quoi Gamzu Letova? Les gens, ils croient à Gamzu Letova. Ils croient que... Bon, j'ai un problème aujourd'hui. Je peux pas dire, je peux pas nier. J'ai un problème, mais grave, un problème grave. Et c'est un problème. Mais Gamzu Letova, ça va m'amener au bien. Vous comprenez? J'ai fait 2 heures d'embouteillage. Bon, je dis, bon, j'ai fait 2 heures d'embouteillage. J'ai fait 2 heures. Mais bon, ça m'a fait du bien. Je dis, non, j'ai fait... Non, je m'excuse, j'ai mal, j'ai les nerfs. J'ai fait 2 heures. Alors moi, il faut que je comprenne. Pourquoi est-ce que c'est 2 heures d'embouteillage? C'est pas seulement qu'elle m'amène à du bien. Parce que j'ai fait 2 heures d'embouteillage, j'étais bloqué, d'accord? Après, on me dit, tu sais, là où tu habites, là où tu gardes ta voiture tous les matins sur ton parking, tous les soirs sur ton parking, il y a un arbre qui est tombé qui a explosé 28 voitures. Donc les 2 heures d'embouteillage, ils t'ont sauvé de te garer comme tu te gares tous les soirs à 18h52. Pile, tu n'as pas mis ta voiture là-bas puisque tu es dans l'embouteillage, et quand l'arbre il est tombé, ta voiture n'était pas là. Donc tu dois dire, merci monsieur l'embouteillage. Donc cet embouteillage, mot négatif, t'a amené à une finalité positive. Mais c'est pas écrit comme ça, c'est écrit gamme, zou, letova. Même ça, même ce mal-là, il est pour le bien. Alors là tu dis, excuse-moi, je vois pas. L'embouteillage en soi, il est mauvais. On ne peut pas dire l'embouteillage, il est bien. Ah, parce que la finalité, elle a cachérisé le début. Mais au début, j'étais en train de souffrir. Ça va ou non? Alors, j'ai un exemple. Tu vois un type, par exemple, il prépare un examen de maths. Maintenant, il fait des centaines d'exercices. Maintenant, l'examen, c'est le 21 juin. Le résultat, c'est le 2 juillet. Le jour du 2 juillet, il a son doctorat de maths. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, eh bien, tu vois, je suis content, malgré tout ce que ça m'a coûté comme nerfs, et comme souffrance, et comme remise en cause, parce qu'aujourd'hui, j'ai un doctorat de maths. En vérité, c'est faux. Pourquoi? Parce que lui, au moment où il est en train de produire un exercice, il se faisait du mal à sa volonté, parce qu'il fallait qu'il se force. Il se faisait du mal à la tête parce qu'il fallait qu'il se casse la tête. Quand il s'est cassé la tête, qu'est-ce qui faisait mal? C'est la transformation chimique de sa tête par les efforts qu'il faisait pour comprendre l'exercice. Donc pour devenir un doctorat de maths, il a fallu qu'il produise un changement chimique de ses neurones qui lui donne une maturité de doctorat de maths. Donc la douleur du pétrissage des neurones par la confrontation avec l'exercice, elle-même a produit la maturité du doctorat de maths. Donc la douleur, c'est elle qui est bonne, c'est pas le résultat. Est-ce que vous me suivez? Vous comprenez? C'est comme si un type il dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire lui? Il tape depuis 2 jours, il est en train de taper sur une pierre. Il est malade. Regarde ce qu'il fait. Il avait une belle pierre toute carrée, un beau bloc de granit. Regarde qu'est-ce qu'il a fait, des petits morceaux. Après tu viens au bout d'un mois, tu dis, oh, quelle statue! Tout sur cette statue! Moi je croyais qu'il allait vendre des morceaux. Je croyais que c'était un fabricant de copeaux. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Copeaux. Il m'a dit non, sculpteur. Pourquoi il sculpte des copeaux? Il est bête ou quoi? Il est brel, il n'a pas besoin de sculpter des copeaux. On sculpte des statues. Ah, tu dis, ah, c'est ça qu'il est en train de faire. À chaque fois qu'il est en train d'enlever un morceau, il se rapproche de la statue. Mais le morceau qu'il enlève en soi, c'est un geste qui fait partie de la statue. Quand tu tailles un diamant, chaque coup que tu donnes, ça casse le diamant et ça fait une facette. Donc la facette, elle est venue parce que tu as cassé le diamant. Donc Gamzu Letova, ça veut dire que le mal est bon, puisque c'est le mal qui produit le résultat. C'est pas le bien final. Le bien, c'est que la résultante du mal. Donc c'est le mal qui est bon, c'est pas le bon. Au contraire, laisse quelqu'un dans son bonheur pendant 10 ans, qu'est-ce qu'il devient? Un pauvre type. Donc parce qu'il a été éprouvé, il est devenu un type bien. Maintenant parce que tu dis qu'il est bien, oh tu dis, eh ben tu vois, ça c'est un mec bien. Mais qu'est-ce que t'as vu ce qu'il a vécu ce mec-là? Il a souffert. Donc sa souffrance qui était le mal, en vérité c'est le bien. Puisque le même mec à qui t'a donné le bonheur depuis le début, de devenir un pauvre type et tu dis, regarde, c'est nul. Alors c'est bien d'être malheureux? Donc le mal, il est bien. Gamzu Letova. Est-ce que vous comprenez? Alors où il est le bien, où il est le mal? Regardez par exemple, les enfants, ils en veulent aux parents du mal qu'ils leur font. Entre 7 et 18 ans. Ouais? Mais à 27 ans, quand ils ont des enfants, ils disent, ben, je suis bien content que mon père, à l'époque, il s'occupait de moi. Parce que si moi, si mon père s'est occupé de moi, comme moi je m'occupe de mon fils, quand je vois que mon fils il me ramène tous les jours une mobilette, je dis que j'aurais été un nul. Donc on met des années à comprendre que le mal qu'on nous a fait, c'était du bien. J'avais des profs, ils me lâchaient pas, ils s'occupaient tout le monde de moi. Et où t'en es? Fais ton exercice. Ah, je l'en voulais, je dis, mais ils ont la haine contre moi. Et l'autre, une espèce d'excroissance de radiateur au fond, il est tranquille. Pourquoi? Il est tout heureux, il est là, il baigne dans son jus, tranquille. Ouais. Et moi, tout le temps, révise, où t'en es, révise, où t'en es, révise, où t'en es. Bon, maintenant c'est vrai, bon, je gagne 250 000 francs. C'est vrai que le mec, l'espèce d'excroissance là-bas de radiateur, maintenant il lave le parterre dans ma société. Bon, c'est vrai, je dois reconnaître. C'est vrai. C'est vrai qu'avec mon maaser, j'ai acheté 3 yeshivotes, c'est vrai. 2000 élèves, c'est vrai. Saha pour le maaser, ouais. Dis merci au professeur. À Botaï. Si le bien et le mal, ils se confondent, où il est le mal et le bien? Où il est le mal, où il est le bien? La logique est simple. Un mal qui est productif, on appelle ça du bien. D'accord? Un mal qui est improductif, on appelle ça du mal. Un bien qui est improductif, on appelle ça du mal. Un bien qui est productif, on appelle ça du bien. Résultat des courses, un bien ou un mal productif, c'est du bien. Un mal ou un bien non productif, c'est du mal. Tu dis, mais quand même, ça m'a quand même fait du bien. Non, ça te fait du mal, parce que c'est en train de te rendre nul, c'est en train de te rendre fragile, c'est en train de te rendre incapable. Tu dis, mais j'ai quand même vécu des années de bonheur. Mais non, puisque la nostalgie de ce bonheur donné va t'empêcher de créer un bonheur construit. Donc, en te créant une jeunesse facile, on t'a garanti, oui, une vie difficile. Puisque tu seras tout le temps dans la nostalgie de dire, oui, mais à l'époque, c'était tellement beau, c'était tellement bien, j'avais ma petite maman, j'avais mon petit papa, j'avais mes petits chaussons, j'avais ma petite douceur, mon petit radiateur, j'avais mes petits livres, j'avais mes petites histoires, j'avais ma couverture, j'étais dans le ventre de ma mère, oui. À Botaï, la sécurité fœtale, c'est 9 mois. C'est pas 90 ans. Est-ce que vous comprenez? Il y en a, ils croient que le jour où toute la France sera câblée, ça veut dire que leur cordon ombilical, il sera dans toute la France. Ils ont mal compris le problème. Il faut... Ça y est, il faut pas faire un transfert. Maman, ma femme, maman, ma mère et ma femme, en attendant que je rencontre ma mère, qui sera ma femme. Vous comprenez l'embrouille? Ça y est, c'est pareil. Et c'est comme ça. Donc je vois à combien est-ce que j'ai besoin du mal et j'ai besoin du bien pour faire évoluer quelqu'un, et que le mal est bien et le bien est mal. Alors si c'est comme ça, regardez ce qu'il dit encore le Ramacham. Vehem, hem divrei hanavi. Ça, ce sont les paroles du prophète. Dans Ishaïa, c'est marqué, Yashuv apecha, oui, tenachameni. Donc le retour de ta colère, de ta face, Tenachameni, elle sera ma consolation. Regardez ce qui est marqué. Ki yodia derachav akadosh baruch hu la'atid lavo. Plus tard, akadosh baruch hu fera savoir ses chemins, le'ene kol Israël, aux yeux de tout Israël. Ech afilu atochachot va'isurim lo ayu et la azmanot letova. Comment les reproches et les souffrances n'étaient que des préparations pour le bien. Ve'achana mamash lebracha, et une préparation pour la bénédiction. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, avec le temps, on se rend compte que tout ce que nous on a considéré comme du mal, en vérité c'était du bien. Et que si un jour un homme il a produit du mal, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui l'a donné, c'est lui qui l'a produit. Parce que quelqu'un qui produit rien, parce qu'il produit quelque chose qui n'a pas de sens, ou qui n'a pas de suite, ou qui n'a pas de productivité, alors ça c'est le mal par excellence. Pour ça que c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas créer le mal. Parce que Akadosh Baruch Hu, quand il crée quelque chose qui va dans le sens de l'évolution. Alors que l'homme, il peut créer le non-but. Et le non-but, c'est le non-bien. Alors si c'est comme ça, hein. C'est marqué, mais od amku marshevotecha, elles sont très profondes tes pensées. La difficulté que nous, on a à comprendre l'intervention d'Hachem dans le monde, c'est lié au fait que Akadosh Baruch Hu, il a la face externe que l'on voit et la face interne. Maintenant, nous, on perçoit les choses au niveau du premier degré. Comme l'enfant qui ne comprend pas pourquoi son père lui tire l'oreille, alors que lui, il voulait des bonbons et qu'il n'avait pas d'argent pour les payer. Donc lui, il voit la face externe, il voit la main qui tire l'oreille. Il comprend pas que derrière, il y a le fait qu'on se fait échapper à un cheminement qui s'appelle le respect de la propriété de l'autre, qui s'appelle de devenir un voleur, devenir un brandit de grand chemin. Donc lui, il voit pas la finalité des choses. Lui, il voit la proximité des choses. Ici, c'est pareil. De la même manière, nous, dans le relationnel qu'on entretient avec Hachem, on comprend pas que la face externe des choses, oui, elle est extrêmement simple. Mais la face interne des choses, elle est extrêmement compliquée. Ça veut dire que le circuit qui amène la réalité, il est hyper sophistiqué. Même si la réalité, a priori, elle a l'air d'être simple, dans le bien ou dans le mal. D'où est-ce qu'on sait ça? Parce que la Gemara, elle demande, dans la Gemara dans Megillah, d'Aftet Vav, Amud Bet, la Gemara, elle demande, elle dit, mais finalement, pourquoi est-ce que Esther, elle a décidé de faire inviter Aman pour le festin? Pourquoi faire? Elle aurait pu aller directement chez le roi et lui dire, regarde qu'est-ce qu'il a fait à Aman, il veut tuer mon peuple. Il y avait des millions de manières de faire. Pourquoi est-ce qu'elle a pensé que le mieux, c'était d'inviter successivement, deux soirs de suite, Aman et Achashverosh, et ensuite de déclarer que Aman était Sorer HaYehudim, c'est-à-dire le bourreau de tous les juifs. Pourquoi c'est comme ça? Alors la Gemara, elle répond, elle dit qu'il y avait 12 raisons, 12 explications pour expliquer pourquoi est-ce que Esther, elle a choisi de faire comme ça, d'inviter Aman et Achashverosh un festin. Alors regardez ce qui est marqué dans la Gemara. Marata Esther, chez Zimna et Aman. Qu'est-ce qu'elle a vu Esther pour inviter Aman? Qu'est-ce qu'elle a pensé que c'était bien? Et après c'est marqué dans la Gemara. Ashkeche Rabba Baravoua le Eliaou. Il a rencontré Rabba Baravoua, il a rencontré Eliaou Anavi. D'accord? Il a posé la question à Eliaou Anavi. Donc la Gemara elle dit qu'il y a 12 raisons pour laquelle Esther elle a invité Aman. Alors Rabba Baravoua, il a demandé à Eliaou Hanavi, il lui a dit, dis-moi, qui, parce qu'eux, ils avaient le dévoilement d'Eliaou Hanavi, comme vous prenez le métro, d'accord? Donc, il a demandé, bon, laquelle des 12 raisons qui est la bonne? Regardez ce qu'il lui a dit. Amarle, Keman, Chazia, Esther, Ve, Avdahachi. Comme qui est-ce qu'elle a pensé, Esther? C'est-à-dire, parmi les 12 avis, qui c'est qui avait la bonne réponse? Il a répondu, Ke, Kul, ou, Tanae, ou, Ke, Kul, ou, Amorae. Comme tous les Tanaïm, et comme tous les Amoraïm. Comme tous les gens qui ont donné un avis, ça veut dire que la décision d'Esther, elle dépend en vérité des 12 raisons qui ont été données par les personnes. Tu dis, mais attends, je comprends pas. Elle a fait pour une raison, elle a pas fait pour 12 raisons. En vérité, c'est faux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'habituer à comprendre qu'un événement, il est pluriel au vertical et à l'horizontal. Quand je vis un événement, oui, moi je le regarde en tant que mon événement. Je dis, voilà, je suis en train de vivre ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les esprits un petit peu fermé. Mais si quelqu'un il veut comprendre la réalité, il est obligé de la regarder au pluriel, par exemple. Pour pas avoir des problèmes avec les gens, c'est bien que quand tu vis quelque chose, ou que tu as un conflit avec l'autre, essaye de regarder l'événement avec le regard de l'autre. C'est-à-dire, mets du pluriel. Maintenant, s'il y a 4 personnes qui sont impliquées dans un événement, sache qu'il y a 4 perceptions de l'événement. D'après ce qu'on a dit tout à l'heure, que l'événement c'est la projection de ma neshama, étant donné qu'on a une neshama chacun, donc en 4 projections, il y a 4 événements. Maintenant, il y a une connexion d'un événement avec 4 lectures, parce que c'est la projection de 4 neshamot. Ça va? Donc maintenant, plus il y a de personnes impliquées, plus la situation est plurielle. Et chacun vit la situation à son niveau de manière différente. Selon sa sensibilité, sa culture, sa volonté, ses midotes, sa psychologie, sa psychiatrie. De la même manière qu'au niveau horizontal, la situation elle est plurielle, de la même manière au niveau vertical, la situation est plurielle. C'est-à-dire, c'est quoi au niveau vertical? C'est que, il y a des millions d'interactions qui font intervenir cette situation qui est ici, mais ces interactions, elles sont d'ordre spirituel dans le monde supérieur. Alors, de la même manière que je comprends que le pluriel, que la réalité, elle est plurielle, je dois comprendre que la réalité au niveau spirituel, elle est plurielle aussi. Donc, si déjà j'ai du mal à m'habituer à comprendre la vie selon 2 points de vue, c'est-à-dire mon point de vue plus le point de vue de l'autre, imagine-toi que je vais avoir du mal à comprendre le point de vue de Dieu, qui tient compte de millions et de millions de circonstances. Ça va? Et de critères. Alors si c'est comme ça, quand HaKadosh Baruch Hu, il va être obligé de justifier tous les événements les uns après les autres, et qui s'inscrit dans une mécanique extrêmement complexe, alors moi, je comprends qu'au fond, j'ai pas la capacité de comprendre tous les éléments. C'est ça, c'est Me'od Amku Marchevotecha, elles sont profondes tes pensées. D'accord. D'accord. Maintenant, quand même, quelqu'un, hein, il se dit, oui, mais... Non, mais pourquoi il a fait ça, Dieu? Quand même. Toujours on fait le calcul. On dit, mais pourquoi j'ai grandi dans une famille comme ça? Pourquoi j'ai pas eu un père comme l'autre il a eu? Pourquoi j'ai pas eu la parnassa? Pourquoi j'ai eu un corps comme ça? Finalement, on a quand même la question. Alors, regardez ce qui est marqué. C'est marqué dans la Gemara dans Psachim d'Afnou Namoudalef. Ve'aya Hashem le melech al kol ha'aretz bayom ha'u yi Hashem echad ushmo echad. Vous connaissez cette, ce passage? Ouais. C'est, on parle à l'époque du Mashiach. Et on dit Ve'aya Hashem. Hashem c'est Yud Kivavke, c'est le tétragramme. Les melech en tant que roi al kol ha'aretz sur toute la terre, bayom ha'u ce jour-là, yi Hashem echad ushmo echad. Dieu sera un et son nom sera un. La Gemara elle dit, Atu Aïdna Lavechadou. Est-ce que maintenant Dieu il est pas un? Ça veut dire ce jour-là Dieu sera un. À l'époque du Mashiach, Dieu sera un. Alors quoi maintenant Dieu il est deux? Maintenant aussi il est un. On dit pas Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Donc maintenant aussi Hashem il est un. Donc la Gemara demande ce que ça veut dire. Amar Rav Nachman Bar Rabbi Yitzhak, Lo ki Olam Hazeh Olam Haba. Ce monde-ci n'est pas comme l'autre monde. Ici on parle de l'autre monde, c'est Olam Haba, c'est Mashiach. A Olam Hazeh, regardez bien. A Olam Hazeh, ce monde-ci, Nirtav Beyutke. Ce monde-ci, il est écrit Beyutke. Il s'écrit avec le nom, le tétragramme, vous savez, les quatre lettres. Yutke, Vavke, d'accord? Oui ou non? Regardez. Il s'écrit avec Yutke, Vavke. Venikra Be'alef Dalet. Et il se lit avec Alef Dalet. C'est Ado, vous savez quand on dit Baruchata, Ado. Comme je vous avais expliqué dans le cours sur les brachot, oui, on dit le nom Ado. Ouais, mais on doit avoir la kavana et on doit lire, on doit voir avec nos yeux le nom, le tétragramme. Mais on ne doit pas le dire, le tétragramme, comme ils disent les témoins de la Java. Ouais. On doit dire Ado. Pourquoi? Alors la Gemara elle dit, ce monde-ci, il est écrit par Yudke Vavke, mais il est lu par Adon. Ça va? Aval le Olamaba, mais le monde futur. Kulo Echad, tout seul c'est un pied. Nikra Beyutke, Venirtav Beyutke. Le monde futur, il sera écrit avec le tétragramme et il sera lu avec le tétragramme. En Botaï, à Kabbalah. Non, Ado et Naï. Non, alors plus tard, on le dira comme ils le disent les témoins de la Java. Mais on ne peut pas le prononcer. Ça va? Parce qu'ils ne savent pas dire le Yud. D'accord? Ça les dépasse. Mais, voilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer rationnellement ce petit passage de la Gemara dans le Sakhim qui est pour nous un peu plus de la Kabbalah qu'autre chose. Est-ce que vous avez encore la patience ou non? Oui? Ça va? Tant pis. Alors. Je vais vous rappeler deux petites notions qu'on avait dit, mais on en a besoin. Yud Kevavke, regardez, Adon, le nom d'Hachem Adnout, c'est la face extérieure du monde, c'est ça, d'accord? C'est la nature. Yudke Vavke, c'est le potentiel, c'est l'intérieur. C'est pour ça que le tétragramme, ça correspond à Midat HaRachamim, la miséricorde, et la face externe, ça correspond à Midat HaDin, c'est Adon, c'est la Midat HaDin, c'est la rigueur. Donc ça correspond à la nature, et ça correspond à ce qui est caché derrière la nature. Maintenant, dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu, il se réalise pas entièrement. Parce qu'il y a une différence entre la face externe, qui est la face naturelle, et la face interne, qui est la face surnaturelle, on va dire. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, Akzbourou? Il, quand même, il crée, il fait marcher le monde, il fait exister le monde, grâce au Yud Kevavke. C'est le potentiel de faire exister le monde. Mais il passe à travers un écran qui s'appelle Adon. Ça va? Maintenant, nous, on a du mal à comprendre le projet divin, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit pas le mur, on voit pas la lumière qui est derrière le mur. On voit de temps en temps une faille. Maintenant, la faille dans le mur, c'est un morceau de Yud Kevavke qui sort. Mais on n'est pas censé le voir. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le prononcer. Parce que regardez, Yud Kevavke, il est là aussi. Il est à l'intérieur de nous. Et dans ce monde-ci, ce monde de matière, on ne peut pas mettre le Yud Kevavke. Parce qu'il n'est pas adapté au monde de matière. Parce que le monde de matière, il est contradictoire. Parce que la nature, elle crie que Dieu n'existe pas. Maintenant, quand on arrivera à un moment où la nature ne fera plus écran devant Dieu, donc, il pourra exister dans la nature, le nom, Yud Kevavke, c'est un peu de nature. Oh là maba. Il n'y a plus d'écran, il n'y a plus de nature, il n'y a plus d'erreur. Il n'y a plus de baratin, il n'y a plus de corps, il n'y a plus de matière. Il n'y a que Yud Kevavke. Dans ce monde-ci, il y a Yud Kevavke, Elohim, Elohim c'est le corps, et la nature. Yud Kevavke, c'est la Neshama, et Hachem qui est derrière la nature. Ce monde-ci, regardez bien, il est écrit avec Yud Kevavke, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait exister le monde? C'est la volonté de Dieu de faire exister le monde. Comme ta Neshama, qu'est-ce qu'elle fait en vérité? Ta Neshama, elle fait exister ta vie. Donc ta vie, en vérité, elle vient de quoi? De ta Neshama. Ça va? Mais elle est formulée par la nature. Puisque la réalisation physique de ta vie, c'est quoi? C'est la nature. Bien qu'elle est véhiculée, elle est transportée par ta volonté. C'est ta volonté qui fait marcher ton entreprise, qui marche ta famille, qui marche ta vie, qui marche ton épanouissement. Donc tu vois bien que la trame de la vie, c'est Yud Kevavke, et la réalité de la vie, c'est Adon. Ça va? Est-ce que vous comprenez ça? C'est important pour la suite. Faites pas semblant. Vous comprenez ou non? Maintenant, plus tard, vous êtes Hachem avec le Mashiach, il n'y aura plus de différence entre les deux. Ça sera entièrement Yud Kevavke. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on verra la trame. C'est-à-dire qu'on verra la trame. Pourquoi nous, on se stresse? Pourquoi nous, on crie à l'injustice? Pourquoi nous, on ne comprend pas? Pourquoi nous, on dit, où était Dieu? Où était Dieu? Pourquoi? Parce que le voile de la nature, il est lié à nos événements personnels. On a dit tout à l'heure, c'est l'intervention de Dieu qui est nigla. On a dit, c'est extérieur, c'est sa réonèche, c'est la punition et la récompense. C'est ce qui me concerne en moi directement. Et moi, malheureusement, comme je ne vois pas le lien avec la trame universelle de l'existence du monde, parce que les pensées de Dieu, elles sont extrêmement profondes, donc moi, qu'est-ce que je fais? Je crie à l'injustice. Un jour, Adjoukou, il va enlever le voile. Il va s'asseoir avec nous, il va mettre un super grand écran, il va te commencer le monde, depuis la création du monde, jusqu'à la fin, il va t'expliquer chaque événement, chaque destinée, chaque douleur et chaque bonheur. Bayomahu, Yahshem Echad, Ushmo Echad. Et toi, tu seras réconcilié avec Hachem. De la même manière que quelqu'un, par exemple, tu crois que tu as fait une crasse. Tu dis, ouais, c'est un pourri, et tu montes la haine, et tu montes la vengeance, Un jour, il t'arrête comme ça, il t'attrape, il dit, écoute, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Et voilà. Toi, tu dis, oh, mais là, excuse-moi, j'ai pas compris, j'ai mal interprété, j'ai mal jugé. Exactement pareil. Nous, on développe un malaise. On développe une contradiction parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais on n'a pas les éléments pour comprendre. Au temps de ma chère, je vous prie, il va dire, maintenant je vais vous expliquer. Ah, maintenant tu vas dire, pourquoi il a attendu tellement longtemps? On retombe dans la même question. Parce que s'il n'y avait pas eu le mal, tu n'aurais pas pu évoluer. Donc il fallait suivre Rabbi pour que tu deviennes un homme. Donc pour que tu puisses le construire, il fallait qu'il y ait la possibilité de se tromper. Et la possibilité de se tromper, c'est ce qui permet à toi d'atteindre la maturité. Si je vous t'avais donné la réponse depuis longtemps, son existence à lui, elle aurait créé ton inexistence à toi. Donc pour que tu puisses exister, Ajourou s'est caché derrière la nature. Donc on a besoin du mal pour créer un écran derrière lequel l'homme peut exister. Maintenant, à la fin des temps où le but il est atteint, Ajourou il n'a plus besoin de se cacher, il déchire le voile, il dit maintenant il n'y a plus que Yud Kevavke, et venez, je vais vous expliquer l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? 5, 6, 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'appelle Ihud Hashem. C'est ça l'unité de Dieu. Aujourd'hui, on dit Hachem Elokeinu, Hachem Echad, mais en vérité, pour nous, c'est une émouna, c'est une croyance qu'on a. On dit, bon, Dieu est un. Parce qu'au fond, tout notre travail, c'est de faire un avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est difficile, parce qu'on a la réalité, on a la remise en cause, on a l'Yetzer, on a la matière, on a le Goy, on a tout ce qui nous écarte d'Hachem. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre notre Neshama, on doit traverser notre corps, traverser la matière, et retrouver Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est notre travail dans ce monde-ci. Donc, le Ihud Hachem, pour nous, l'unité de Dieu pour nous, c'est culturel, c'est l'aïmouna. Mais plus tard, ça sera une réalité, la réalité ça sera ça. En vérité, c'est la réalité du tzadikim, par exemple. Tu viens, tu racontes un malheur à un tzadik, tu lui racontes un problème. Le tzadik il rigole, il se marre. Il dit mais attendez, je suis mal, je suis pas bien, il rigole. Parce que lui, il n'y a pas d'écran, Yud Kevavke, Adon, il n'y a pas d'écran. Lui, il voit le bien, il voit la finalité, il se marre, il dit donc qu'il est en train de s'angoisser alors qu'un jour il est en train de lui préparer un bonheur. Toi, tu pleures. Hein. Tu dis, mon magasin, il a brûlé. Mais lui, il voit, lui, il voit que ce mec-là, il a sacrifié toute sa vie pour son magasin, il voulait lui enlever 4 enfants pour lui montrer que sa vie, ils sont contre-tapes tellement il pense à son magasin. Maintenant, il a dit, allez, Rachmanout, il a dit, allez, je lui enlève le magasin pour lui montrer que le magasin, c'est pas important. Mais j'aurais pu lui enlever les 4 enfants pour qu'il comprenne que sa vie, elle est plus importante que le magasin. Donc quand c'est le tzadik qui lui dit, oh, Dieu il m'a brûlé mon magasin, mais il y a toujours mais le tzadik il dit, c'est marrant, moi je vois qu'il aurait dû avoir 4 enfants, qui aurait dû être brûlé dans une voiture. Il dit, mais il rigole, il se marre de ton magasin. Vous avez compris? C'est-à-dire que pour le tzadik, il n'y a pas. C'est pour ça que c'est marqué, Ajourou, quand il a créé la lumière, il a vu que cette lumière, elle était trop belle pour les Rechaïm, alors il l'a cachée. Oui, il l'a cachée dans la Torah. Maintenant, celui qui étudie la Torah de toutes ses forces, il atteint cette lumière. Et cette lumière, elle voit d'un bout à l'autre du monde. Donc il n'y a plus l'écran de Adon, il n'y a plus que le Yud Kevavke. Donc le tzadik, il voit toute l'histoire, depuis le début jusqu'à la fin. Donc il se marre de tes souffrances, il se marre de tes angoisses, il se marre de tes peurs, ta peur. Mais il sait que tu es capable, il sait que tu vas y arriver, il n'a pas peur lui. Pourquoi t'as peur? Parce que toi t'as fait un écran, et cet écran, il t'empêche de voir la réalité. Comment on appelle cet écran? Tu sais comment on appelle cet écran? Oui, mais... L'aïmouna, elle dit oui, mais la personne, elle dit mais. Bon, je suis content, bon ça va, bon Hachem, j'ai tout ce qu'il faut. Comment tu vois des gens? Ils se déchirent dans le couple, mais ils ont tout pour être heureux. Ils se réalisent pas dans leur vie professionnelle, mais ils ont tout pour réussir. Ils disent des bêtises, alors qu'ils ont l'intelligence. Pourquoi? Ils ont juste qu'il a fait, ils ont le potentiel, mais ils réalisent pas. Ils se plantent dans la réalité. Ah, tu dis, mais c'est raval quand même. Quel gaspillage. Quel gaspillage. Il se séparait. Ah, je me dis, mais réaliste, toi, mais existe. De quoi t'as peur? Je t'ai donné tout. Ah ouais, mais j'y arriverai pas, c'est trop difficile. Et puis, Dieu m'en veut, puis ça marche pas. J'ai essayé une fois, j'ai essayé deux fois. Qu'est-ce que t'es en train de me dire? T'es en train de me dire que t'es condamné à mourir. Mais si Dieu, il voulait te tuer, il va pas perdre le temps. C'est vite fait pour lui. Tu sais glisser sur un trottoir. Il te avaler une fourchette. C'est rien pour lui. Donc s'il t'a laissé vivant, c'est qu'il pense qu'il peut te arriver. Ça veut dire qu'Hachem, il se marre de tes angoisses. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, oui, mais, j'aurais préféré que ça soit différent. J'aurais préféré que ça se passe différemment. Que ça se passe d'une autre manière. J'aurais préféré, j'aurais plutôt vu comme ça. Moi, j'aurais vu grand, blond, sympathique. Bon, il est petit, il est maigre, et il est brun. Bon, d'accord, t'avais un film dans la tête. Là, je vous dis, éteins la télé. Vas-y, éteins, s'il te plaît. Et regarde ce que je te propose. Réfléchis. C'est vrai que t'es venu pour acheter un diamant à 200 carats. Bon, il t'a proposé un 20 carats. Bon, mais d'un autre côté, toi, t'es venu avec 1000 francs, alors faut te calmer. Bon. Oui, c'est pareil. Je comprends ça. Donc, le fait de dire oui, mais, ça veut dire qu'il n'y a pas la shlemout avec Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas le lien avec Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas l'entité de Kadosh Baruch Hu. Mais qui est-ce qui crée la différence? C'est moi. Parce que quand moi je dis mais, je perpétue qu'il y a un obstacle à l'unité de Dieu. Puisque moi-même je dis, ouais mais, t'as vu la réalité? Il faut quand même tenir compte. J'adore les gens qui me disent, oui mais il faut quand même être réaliste. Quelle horreur. Qu'Hachem nous protège de la réalité. Mais Rabotai, la réalité c'est une vue de l'esprit. C'est comme le mec qui te dit, ouais mais j'ai un examen final. Mais les bosseurs, ils n'ont pas peur des examens. Et les glandeurs, ils ont peur des examens. Donc l'examen, c'est dur ou c'est pas dur? C'est jamais l'examen qui est dur, c'est toi qui es un glandeur, c'est tout. Donc, Dieu il te dit, mais projette, fabrique ta réalité, mais fabrique-la. Fabrique ta réalité. Si tu fabriques ta réalité, il n'y a pas de mais. C'est quoi la fabrication de la réalité? C'est l'unité de Dieu. Regardez bien, entre ta émouna, ta croyance, et ta réalité, il n'y a plus d'obstacles. Donc Dieu est un. Il y a un obstacle, il y a une conjoncture, les difficultés, les souffrances, les malaises. Donc Dieu est deux. C'est ça l'unité de Dieu. Si c'est comme ça, regardez bien. Donc on a compris que le temps futur, quand je vous retrouve à faire ce grand dévoilement, c'est ça qui va ressembler à l'époque d'Esther. Parce qu'à l'époque d'Esther, on a eu plein d'événements qui paraissaient normaux, et à la fin on a tout compris, on a dit « Ah, c'est pour ça, Vashti, c'est pour ça, Aman, c'est pour ça, le décret, c'est pour ça, Mordechai, c'est pour ça, Esther, c'est pour ça. » On a tout compris à la fin. De la même manière, à la fin des temps, on va comprendre toute l'histoire. Donc, la finalité du monde, dans son éclairage, elle ressemble à la finalité de la Megillah d'Esther, dans son éclairage. Alors la Gemara, elle dit, dans Chulin, la couche la mette tête, Esther minatora minaïn. Esther, d'après la Torah, d'où est-ce qu'on fait? Il a posé une question. Tu dis, mais Esther, attends, excuse-moi, Esther, c'est pas mentionné dans la Torah. Enfin, il faut être réaliste, chronologiquement. La Torah raconte l'histoire de Moshe, de Abraham, de la sortie. Je t'ai demandé une question. Où est-ce que c'est écrit Esther dans la Torah? C'est marqué? Va anochi Esther. Estir et panai bayomahu. Et je voilerai ma face ce jour-là. Quand c'est marqué Esther, Astir et panai, Astir, c'est la même lettre que Esther. Vous comprenez? C'est pas genre c'est marqué Estir dans la Torah, ouais, et par hasard elle s'appelait Esther. Mais pas n'importe quelle Esther, la Esther, ouais. Pas du tout, ouais. Esther, c'est Esther Panim. Ça veut dire quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il a voilé sa face. Ça veut dire que, c'est quoi Esther Panim? C'est voilà, tu vois, quand il fait clair, quand il fait, au contraire, quand t'as quelqu'un qui te sourit, il te regarde, il te sourit, il t'accueille, tu vois, tu te sens bien. Si quelqu'un, il tourne la tête, il veut même pas te regarder. Il a une tête sombre. Il tourne la tête, il te regarde comme ça. Tu te sens mal. S'il fait clair, il y a du soleil, il fait beau, tu vois un ciel ouvert, tu te sens bien. Si tu vois un ciel fermé, un temps noir, des nuages noirs, tu vis les nuages noirs, annoncer des événements graves. Tu vois cette ambiance, ça s'appelle Esther Astiret Panay. Pendant toute la première période de l'histoire de la Megillah, c'est la Ramma profonde. Achashverosh, il haït les Juifs. Aman, il haït les Juifs. En plus, il est bête. Ce qui est extrêmement dangereux quand vous mettez les deux en même temps. Ouais. Après, il fait un décret. Après, les Bnei Israël, ils font une faute. Ils vont au festin que Achashverosh a mis en place. Ils y vont, ils se réjouissent là-bas. Alors que Achashverosh, il avait récupéré les trésors de Nabucodonosor, dont les habits du Kohen Gadol, dont les ustensiles du temple, et il a servi les gens à boire dans les ustensiles du temple, et il a mis les habits du Kohen Gadol. Et les Juifs de l'époque, ils n'ont pas voulu faire un conflit politique, ils n'ont rien dit. Achashverosh, il a dit, vous avez profité de ça, vous auriez dû vous enfuir, vous n'auriez pas dû aller là-bas, vous auriez dû mourir plutôt que d'aller à cette Séouda. Vous avez été à cette Séouda? Aman. Donc, tous ces événements-là, ils se mettent en place. Qu'est-ce qu'ils amènent à la finalité? La lumière. Mais entre-temps, pendant jusqu'au moment où Esther, elle a réussi à retourner la situation. Ouais? Avant ça, c'était quoi? C'était Esther Astiret Panay. C'était sombre, imagine-toi. Mordechai, il va dans les rues. Il y a un décret mondial. On va tuer tous les... C'est la seule fois dans toute l'histoire de l'humanité où tous les Juifs du monde entier ont été menacés de destruction en une seule fois. Alors tout le monde lisait Tehillim, tout le monde jeûne, tout le monde s'angoisse, on prend les enfants, on les fait prier, on prie dans les synagogues, on arrête de travailler, on fait teshuva. Regarde cette angoisse comme ça, une ambiance d'angoisse. Comme les scuds, on est à la guerre du Golfe, on attend les scuds. On ne sait pas, c'est une guerre chimique, c'est une guerre truc, on ne sait pas. Est-ce qu'on sait que les masques seront valables, seront pas valables? On est comme ça. Ça c'est Aster, Astiret Panay. Où il a éteint la lumière. T'es dans le noir. À la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il allume la lumière. Et ça c'est exactement l'histoire d'Esther. Alors ce qui est incroyable, vous savez, nous on lit la Megillah, on met en moyenne 20-30 minutes pour lire la Megillah. Bon, l'histoire de la Megillah, elle s'enchaîne, les éléments ils s'enchaînent les uns après les autres. Mais vous savez que toute l'histoire, elle a duré 9 ans en vérité. C'est depuis le moment où le roi il a fait le festin et qu'il a enlevé Vashti, ça a duré 9 ans jusqu'au moment où Esther elle a accusé Aman et qu'on a pendu Aman. 9 ans, on voit pas hein. C'est pareil. Pourquoi? Parce que nous, quand on lit les choses de manière enchaînée. C'est comme dans la vie. Par exemple, toi, tu vois un copain à toi, tu le vois à 8 ans, tu le revois 9 ans après. Tu remarques qu'il a changé. Mais c'est pas que tu le vois tous les jours. Il ne voit pas qu'il change parce qu'il le côtoie tous les jours. Quand tu vis au premier degré, tu ne vois pas les changements dans l'événement. Quand tu lis la Megillah d'un seul coup en 20 minutes, tu dis, oh, mais c'est extraordinaire. Mais eux, les gens qui vivaient à l'intérieur, ils ont vécu quoi, eux? Ils ont vécu 9 ans d'angoisse et un mois de kiff. Parce que pendant 9 ans, ils ont vu se mettre en place une ignoble conspiration pour détruire tous les Juifs du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même eux, ils n'ont pas compris. Même les Bnei Israël, ils n'ont pas compris. Et ce qu'ils n'ont pas compris, c'était ça, l'obscurité de Dieu. Ouais? Ça veut dire quoi? Eux, ils n'ont pas compris que, par hasard, le roi qui a un rachat, il a pris Esther qui est une tzedeket. Par hasard. Ils n'ont pas compris que Aman, en vérité, il a mis en place un décret qui est mortel pour tous les ministres. Ils n'ont pas compris pourquoi est-ce que Mordechai, il refuse de se prosterner. Il est fou, il ne veut pas se prosterner. Mais Aman, il va nous détruire à cause de ça. Il ne comprend pas pourquoi Esther, elle invite le rachat avec le roi, ouais, pour manger, pour faire un repas, alors que tout le peuple juif, il est en train de pleurer, il est en train de souffrir. Et elle se dit, tiens, on va faire une bouffe. Personne ne comprend rien à ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas vu comment est-ce que Akadosh Baruch Hu, il organise l'histoire pour arriver à ses fins. Si c'est comme ça. Hein. En vérité, ils n'ont pas vu que... Qui c'est qui a conseillé de tuer Vashti? Qui c'est qui a conseillé de tuer Vashti? C'est Aman. Donc c'est lui qui a fait rentrer, on a dit Esther, à l'intérieur du palais. Esther, c'est la solution au problème. Donc Akadosh Baruch Hu, avant de poser le problème, il avait prévu la solution. Maintenant, qu'est-ce qui va entraîner la mort de Haman, la venue de Esther dans le palais? Donc le jour où il a fait rentrer Esther, il a décidé de sa mort. Après, qui c'est qui va décider de tirer au sort une date pour détruire tous les juifs du monde? C'est Haman. Mais la date qu'il a choisie, elle correspond en vérité dans le calendrier, dans l'absolu, à un jour de joie extraordinaire. Qui va être le jour de Pourim, qui est une finalité positive de bien pour les bénis d'Israël. Maintenant, c'est pas qu'on a institué la fête de Pourim parce qu'il s'est passé un événement de bien. C'est parce que ce jour-là, il contient dans le calendrier une situation renversante, c'est-à-dire que le temps, il contient, comme je vous l'ai expliqué des dizaines de fois, à chaque étape, le temps, il contient un potentiel. Et le potentiel du temps de Pourim, c'est quoi? C'est le renversement de situation. Donc lui, quand il a choisi le jour de Pourim, soi-disant pour détruire les bénis d'Israël comme lui le croyait, il a choisi le jour qui est le jour du renversement de situation, de sa situation à lui. C'est lui qui a cassé sa maison pour prendre un poteau pour fabriquer la potence de Mordechai. Et c'est sur cette potence que lui, il va être pendu. Comme tu as regardé l'événement d'un côté et que tu n'as rien compris, comme tu as regardé l'événement d'un autre côté, tu as tout compris. Un caillou qui est regardé du mauvais côté, ça devient un diamant quand tu le regardes du bon côté. Les yeux d'experts, ils voient le diamant. Les yeux d'amateur, ils voient un caillou. C'est exactement pareil pour le bien et pour le mal. C'est pour ça que ça s'appelle Megillat Esther. Esther, c'est le fait que c'était caché. Et Megillah, c'est galouille. C'est le dévoilement. Vous comprenez ou non? Igeret. Vous savez que la Gemara dit que la Megillah, ça doit être une Igeret. C'est quoi une Igeret? Normalement, c'est une lettre, le mot. Mais Oger, ça veut dire accumulé. C'est-à-dire, Agra, c'est le salaire. Donc Oger, c'est accumulé en hébreu. Donc ça veut dire qu'en vérité, l'événement final, c'est l'accumulation de tous les événements qui sont passés avant. Donc il faut lire une Igeret, c'est-à-dire le résultat d'une accumulation. Il faut lire la Megillah, qui est le dévoilement final du Esther, donc de l'obscurité, de l'absence d'Akadosh Baruch Hu, qui va se dévoiler dans la lumière. C'est exactement ça, l'enseignement. Alors si c'est comme ça, maintenant on comprend pourquoi c'est marqué que toutes les fêtes, elles vont être annulées, mais Pourim ne va pas être annulé. Mais c'est normal. Parce que la finalité du temps de Mashiach, c'est de voir que tout ce qui a été fait dans le monde, en réalité, c'était pour le bien. Mais on le comprendra seulement à l'époque du Mashiach, parce qu'à l'époque du Mashiach, on va enlever l'écran qui nous empêchait de comprendre et on va comprendre. Exactement ce à quoi nous prépare la fête de Pourim. C'est-à-dire que si quelqu'un y vit bien la fête de Pourim, c'est-à-dire il se casse bien la tête pour voir que c'était grave, pour voir qu'on était mal dans la tête, pour voir qu'on était dans l'obscurité, pour voir qu'on était dans la mort. Et vana fohu, on voit que tout s'est inversé, et que finalement la lumière elle est arrivée, et que la délivrance elle est arrivée. Alors ce schéma-là qu'on va induire chez nous, et qu'on va éduquer chez nous, parce qu'il faut bien comprendre que c'est pas une histoire qu'on nous raconte, c'est une éducation qu'on nous donne, pour qu'on puisse éduquer chez nous, de dire, voilà, il y a le noir et ensuite il y a la lumière. Ouais? Il y a la souffrance et après il y a la délivrance. Alors ce schéma, si on l'absorbe, alors c'est ce qui va nous permettre de comprendre les circonstances qu'on va vivre au Mashiach. Rabotai, les gens qui vont paniquer au Mashiach, c'est les gens qui n'ont pas bien fait la fête de Pourim. Les gens qui vont être tranquilles au Mashiach, c'est parce qu'ils savent très bien qu'on vit dans des souffrances, mais que ces souffrances-là, elles nous amènent à la lumière. Ceux qui ne sont pas préparés, ils vont dire « oui, mais !» et ils vont crever des souffrances. Ceux qui sont préparés, ils vont dire « après la pluie ». Ils vont être capables d'attendre. Parce qu'ils sont éduqués, eux, à passer par la difficulté pour arriver à la réalité. Donc c'est aussi pour ça que Akadosh Baruch Hu, il va enlever, on a dit, que les événements de la venue du Mashiach, ils vont dépasser largement tous les événements de la sortie d'Égypte. Parce que même si quelqu'un, il a vu la sortie d'Égypte, et avec tous les événements extraordinaires, mais il y avait aussi du sombre dans la sortie d'Égypte. Il y avait aussi des côtés noirs dans la sortie d'Égypte. Tous les Égyptiens, ils sont morts. C'est sombre. Il n'y a que 1/5 des Israël qui sont sortis, les 4/5, ils sont morts. Mais il y en a qui disent que c'est 1/50 qui est sorti. Il y en a qui disent que c'est 1/500 qui est sorti. Ça fait des millions et des millions de morts. Donc, à la sortie d'Égypte, c'est une lumière extraordinaire, mais c'est aussi noir. C'est aussi une angoisse. Quand les Israël étaient en train de chanter, oui, parce que la mer, elle est retombée sur les Égyptiens. Oui. Les anges, ils ont dit, mais pourquoi ils rigolent ceux-là, pourquoi ils chantent? Mais eux, ils ont fait idolâtrie, et les Égyptiens aussi, ils ont fait idolâtrie. Alors pourquoi c'est les Égyptiens qui ont pris sur la tête? Ouais. Elle dit, la Gemara, t'as pas le droit de te réjouir. devant la mort de ton ennemi, parce qu'en vérité, entre l'acteur du bien et l'acteur du mal, peut-être que ce seraient les Égyptiens qui seraient devenus les tzadikim, et peut-être que vous, les Israéliens, vous auriez été des Égyptiens. Alors pourquoi tu te réjouis? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écran entre le bien et le mal, il est tellement fin, il est tellement fragile, qu'il ne faut pas trop rigoler, il ne faut pas se prendre pour un tzadique. Toi tu prends, tu dis, moi j'ai fait teshuva, moi j'étudie la Torah, et tu regardes l'autre. L'autre, il comprend rien, c'est un ignorant. Attends, lui, il est ignorant. Mais quand il fait une faute, il la fait pas volontairement, puisqu'il est ignorant. Toi, quand tu fautes, tu la fais volontairement, puisque tu connais. Alors, lui, il est plus ignorant, mais toi, tu es plus rachat. Puisque le niveau de rachat, il dépend du niveau de conscience. Et la conscience, elle dépend de la connaissance. Ça veut dire qu'il ne faut pas apprendre pour être inconscient, puisque nul n'est censé ignorer la foi. D'accord? Mais, d'un autre côté, tu ne peux pas t'apesantir sur l'autre en disant, lui, t'as rachat, allez, t'as rachat, n'est-ce pas la mouchra, après. Je sais, moi, ce que tu fais en cachette, moi. Je sais, moi, comment t'es mechalel Shabbat, je sais, moi. Parce que tu vas à la synagogue, alors. Peut-être que vite fait, là, comme ça, quand t'as un problème, tu déchires tes lettres, tu ouvres des paquets, tu écris un petit mot vite fait de peur que t'oublies. Va savoir. Je sais pas sur Internet le samedi après-midi, je sais, moi. Vous comprenez ou non? Si c'est comme ça, ça veut dire que à ce niveau-là, un homme, il comprend. Pourquoi est-ce que toutes les fêtes, elles vont être oubliées à l'époque, et tous les écrits aussi vont être oubliés. Pourquoi? Parce que le plus grand écrit, c'est celui qui va... tous les écrits des prophètes... Je finis. Tous les écrits des prophètes, c'est ceux qui vont t'amener à comprendre les événements qui vont être vécus durant la venue de Mashiach. Mais le seul écrit qui va te permettre de comprendre tous les événements depuis la création du monde jusqu'à la fin, c'est la Megillat Esther. Donc c'est pour ça qu'on va garder... la Megillat Esther, on l'a dit au début du cours, et c'est pour ça aussi qu'on va garder la fête de Pourim. La fête de Pourim, ça va? Mais c'est aussi marqué qu'on va garder la fête de Kippour, c'est normal. Parce que c'est quoi la fête de Kippour? La fête de Kippour, c'est que un homme, il est bouché dans sa perception du divin par le matériel qui l'entoure et par le matériel qu'il contient. Donc par le fait que dans le jeûne et dans l'abnégation et dans la prière, il se débarrasse de la matérialité qui l'empêche de voir la lumière, le soir de Yom Kippour, oui, il est comme un ange. Il a la lumière en face de lui, il est libéré de toute cette matière. Donc, Yom Kippour et Pourim, c'est la même fonction. La seule différence, c'est que la Gemara, elle dit que Pourim, c'est plus grand que Yom Kippour. Pourquoi? Parce que pour arriver au degré d'élévation à Yom Kippour, c'est parce que tu luttes contre ce qui est négatif chez toi. Alors que à Pourim, le degré d'élévation que tu vas atteindre, c'est par la joie de comprendre vers où tu vas. Une fois, c'est la fuite du mal, une fois, c'est la direction que tu prends vers le bien. La joie, elle te transporte, elle te véhicule, elle te fait fonctionner, elle te fait atteindre des niveaux extraordinaires. Ça, c'est la joie de Pourim qui est libératrice. C'est vrai aussi que la joie de le travail de Kippour, il est libérateur. Mais là, c'est une libération par le fait que tu casses la carapace. Ici, c'est une libération parce que tu n'as plus de carapace. Tu ne sais même pas si c'est une carapace. Et ça, c'est aussi le travail qu'on fait dans ce monde-ci. Tout ce monde-ci, de se préparer pour Olam Haba, c'est un travail que l'on fait pour lutter contre ce qui nous empêche de l'atteindre. Ce qui nous empêche de l'atteindre, c'est le monde, la matière, c'est la perception qu'on a de la matière. Donc la lutte qu'on a contre la matière dans la Kedusha, dans l'accomplissement des mitzvot tous les jours, dans l'accomplissement de l'étude de la Torah tous les jours, c'est ce qui fait qu'on peut dépasser, d'un côté en fuyant le mal, comme le travail de Yom Kippour, d'un côté, en cherchant la joie du bien, comme le travail de Pourim, et la combinaison des deux, c'est ce qui amène quelqu'un au monde futur. Qui est l'éclairage, la luminosité maximum, à la fin, qui a déchiré tous les écrans qui t'empêchaient de voir la lumière. D'accord? Voilà.